midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Midi pile. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Jeff Fortin avec Pascal CV pour surtout vous informer, un petit peu vous divertir. Dans cette émission du midi, de midi à 14h, comme à l'habitude, on a un beau panel. On va avoir Éric Lefebvre, le député de la région d'Arthabasca. Non, pas au provincial, parce que c'est Alex Boissonneau, au fédéral, avec le Parti conservateur du Canada, qui va être avec nous aux alentours de midi 45. Dossier Curam, on vous en a parlé très tôt à Boulevard 102.1. C'est un dossier... Peut-être qu'il va devenir pire que Satellite au niveau canadien en informatique. Alors, il va venir nous parler de ceci, M. Lefebvre, le député. On va l'avoir au téléphone. On va avoir pas une, mais deux fois du Mathias Turcotte, Pascal CV.
Oui, j'ai bien hâte de l'accueillir, entre autres, pour le petit Vox Pop.
Oh
fait,
oui,
hein?
Vox Pop, est-ce que vous savez ce qui vous attend à compter de demain pour le transport en commun en ville qui est détournée en raison des travaux du tramway?
Là, j'ai mis la petite vidéo que le Bruno Marchand a fait en...
Oui, puis je l'ai rentré dans la machine, on va l'écouter tantôt.
On va l'écouter en collaboration avec le RTC. Mais c'est il y a 2 heures que ça a été publié. Moi, j'aurais pris ça cette semaine. J'en aurais pris là, presque aux demi-heures pour être sûr que tout le monde soit avisé.
Exactement. On a parlé hier avec Alicia Despins, d'ailleurs, c'est sur blvd.fm, du mauvais timing de cette mission du maire Marchand. Au niveau de l'Alberta, la semaine avant que les travaux commencent du tramway, la semaine de budget provincial. Donc, c'est vraiment pas le bon timing pour Bruno Marchand de partir. Et également, Mathias, on a nous parlé d'un dossier d'escalier, parce qu'on a su hier, Pascal, durant notre émission, tu nous as rapporté que l'escalier du Faubourg, ça allait coûter 1,4 million refaire en entier. Mais là, il y a plein d'escaliers à Québec qui ont de la difficulté. Donc, il y avait conférence de presse tout à l'heure, 11h. Mathias va venir nous parler de ceci également. Puis, Éric Ouellette, notre spécialiste en conflits internationaux, va nous parler aussi, notre spécialiste en conflits militaires, aux alentours d'une heure. Évidemment, suit dans quelques minutes le duo Farnell-Morissette-Lambert-Drainville pour leur discussion. Mais avant tout ça, Pascal Cévé, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Je suis vraiment désolée de commencer avec ça, mais j'ai peur de l'oublier parce que c'est pas, ça fait pas partie de mes nouvelles normales, mais Chuck Norris qui est décédé.
Ben oui!
Hein, je veux pas insulter personne en oubliant, je le sais, Farnell me fait des gros yeux. Voyons, t'aurais pu oublier ça. Décédé à 86 ans, c'est l'acteur américain Chuck Norris. On apprenait ça aujourd'hui, ce matin. On savait qu'il avait été hospitalisé hier, mais le roi des arts martiaux, celui qui est plus fort que la mort même, parce qu'il devrait ressusciter là, si on en suit son cursus, là, qui a incarné au petit, au grand écran, le défenseur musclé, celui qui défendait les valeurs de l'Amérique, ben, malheureusement, il est décédé, donc assez soudain. Mais c'est sur ses réseaux sociaux que sa famille a annoncé tout ça, entre autres sur Instagram. Il a été victime d'un malaise, puis il avait été hospitalisé, comme je vous disais, à Hawaï hier. Malheureusement, ben, il en est décédé. Je sais, vous êtes éploré aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec vous. Je ne voulais pas l'oublier de façon négative. Là. On s'entend, là? C'est juste parce qu'il y a plein de nouvelles, entre autres. On est revenu sur la femme qui a été retrouvée inconsciente près de la Grande Allée. Elle est décédée, malheureusement. Donc, le mystère plane toujours. Là. On parlait d'une femme inconsciente dans une entrée du secteur Montcalm, secteur assez cossu, décès qui avait été confirmé ce matin, mais on est toujours en enquête. Donc, la cause demeure nébuleuse. Là, on ne savait pas, parce qu'on n'est pas capable nous l'indiquer, si la femme de 42 ans présentait un état de consommation, des marques de violence ou si elle avait subi un malaise. On aura plus de détails, j'ai l'impression, dans les prochains jours. Ce qu'on sait, c'est que ça ne devrait pas être criminel comme cause. Voilà, c'était pour les nouvelles de
nos sympathies à la famille.
Absolument, toujours. On en parlait, le fiasco SAQ-CLIC du gouvernement fédéral sur le projet QRAM, dont la facture est déjà passée de 1,75 à 6,6 milliards de dollars, n'a pas fini de faire couler de l'encre. Et la presse rapportait ce matin qu'Ottawa ignore l'ampleur des coûts du fonctionnement du système de prestations QRAM. Puis une fois qu'il va être terminé, après 2031, bien, peut-être qu'on va avoir enfin une idée, mais on mentionne que la facture devrait encore grimper considérablement bien avant la fin du déploiement. RTC, qui c'est sûr que dans la une, on s'attend à ce que les trajets modifiés en raison des travaux liés au projet de tramway aient un impact assez limité sur ses utilisateurs. C'est ce qu'on a dit en entrevue à Radio-Canada avec le porte-parole du RTC qui expliquait qu'avec les choix de parcours qu'ils ont faits et les mesures préférentielles qui ont été mises en avant avec la ville, on ne devrait pas voir de gros impacts, là, autant sur les heures de pointe que dans les parcours habituels. Mais quand même, la clientèle n'était pas tout à fait en accord avec ça. Il y en a plein qui ignorent encore que ça va être touché et de la manière dont ce sera touché dans leur vie. Éducateur de la petite enfance de la région de Portneuf, Christopher Bouchard, qui a été accusé d'avoir agressé sexuellement 7 enfants âgés de 3 à 9 ans. Je pense que c'est important de le redire, ça aussi, en manchette.
Merci beaucoup, Pascal Sévin. On passe au segment discussion entre Farnell Morisset et Lambert Drainville. Mais si on apprenait ce matin que François Legault va rester comme député jusqu'à la fin de son mandat, député de l'Assomption, s'il avait décidé de quitter, il n'y aurait pas eu d'élection partielle en raison du court délai avec l'élection générale. C'est rare, je suis cynique dans la vie, mais je me suis dit, coudonc, il fait tout ça pour son 300 000 piastres. Les gars, vous en pensez quoi?
Ben oui.
OK, vas-y, Lambert, j'avais oublié d'ouvrir le micro de Farnell. Vas-y. Il le fait pour 300 000?
Ben oui. Je veux dire, ben oui, ben non. Là. Écoute, on parle d'un gars, là, ça fait... Tu sais, puis ça, écoute, je te dis, là, quand je vois quelqu'un, puis juste que tu aies un doute, Jeff. Le gars, ça fait 25 ans qu'il est là comme député. Il était ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, premier ministre pendant 8 ans. Ça fait un demi-siècle qu'il se dédie à travailler pour le Québec, pour les Québécois. Le monde chiale quand un élu quitte en plein milieu de son mandat. Rappelle-toi Joël Boutin, rappelle-toi Pierre Fitzgibbon.
Ah oui, en effet.
Et ils ont bien
André Laforêt.
André Laforêt, on pourrait faire la liste. Là. et les gens ont bien raison de chialer, surtout quand ça se fait aussi rapidement que Fitzgibbon et Boutin après quelques mois seulement de l'élection. Surtout que ça coûte un demi-million de contribuables. C'est François Legault et son gouvernement lui-même qui ont adopté les nouvelles règles pour dire, ben là, si vous quittez en plein mandat, à moins que ce soit pour des raisons de santé ou des raisons familiales, vous n'aurez pas droit à votre prime.
Mais ça, mais Lambert, c'est pas de mauvaise foi de dire il voulait juste sa prime. C'est la nouvelle politique du jour, ça. On s'entend, là, François Legault qui décide. Il va sûrement aller faire plus de coucou dans l'Assomption qu'il n'en a jamais fait. Mais vu qu'il avait tout instauré ça, c'est pas pour suivre un peu la logique de ce qu'il a demandé à ses propres collègues?
Ben exact. Il s'est fait élire pour un autre mandat de 4 ans, puis il va respecter son mandat de 4 ans. Puis là, le monde chiale parce qu'il s'en va avant, parce qu'il décide de pas s'en aller avant son mandat de 4 ans. Voyons donc, là, il va respecter son mandat. Puis ben honnêtement, là, sa prime de départ, là, on s'entend-tu qu'il l'a pas volé? Là? Il ne l'a pas volé. 300 000 $ merci pour le service rendu, bonne chance pour la suite.
Ouais, ben moi je suis d'accord avec Pascal, c'est la nouvelle politique de la journée et je trouve ça désolant que ce soit ça la nouvelle politique de la journée. Ça montre à quel point notre culture politique envers nos attentes, envers nos députés est tellement faible que la nouvelle, c'est que oui, il y a un député qui va finir son mandat. Je comprends, là, c'est pas un député comme n'importe quel autre, je suis d'accord.
Non, c'est
il a été premier ministre.
Mais c'est le premier ministre qui va retourner sa banquette arrière, c'est ça qui est spécial.
Ça reste que si on est un électeur de l'Assomption, justement, là, on lui a donné un mandat pour qu'il fasse son 4 ans, puis c'est une nouvelle, on en fait les manchettes que oui, il va finalement faire son 4 ans. Je veux dire, je comprends, encore une fois, oui, il a été premier ministre, mais avant d'être premier ministre, tout le monde, qu'on soit ministre, premier ministre, on est député en premier, on a une responsabilité envers les gens qui nous ont élus en premier. Et puis, ça ne devrait pas être surprenant, ça ne devrait pas être une nouvelle, même si je comprends que ça l'est, que quelqu'un remplisse ce mandat-là jusqu'à la fin.
Quasiment une obligation. Les gars, Jeff aussi, pensez-vous que l'Assomption va le revoir? Là? Est-ce qu'il va retourner un peu plus? Est-ce qu'on voit Lambert, là, toi qui as été en politique, est-ce qu'on voit le premier ministre habituellement dans sa circonscription, habituellement?
Non. Il y a généralement une bonne équipe en circonscription qui ont tu sais, les employés en circonscription ont dans la circonscription du premier ministre généralement ont beaucoup plus de responsabilités parce qu'ils doivent compenser pour le fait que le PM n'est jamais là. Généralement, il va y aller durant la campagne électorale, il va prévoir une journée durant la campagne pour faire un passage dans son comté puis montrer qu'il est quand même là puis que ça lui tient à cœur, mais c'est sûr et certain que en termes de présence dans le comté, c'est certainement dans les députés là, qui passent le moins de temps dans leur comté. Bien honnêtement, c'est un petit peu comprenable là, quand tu es le chef de l'État.
En effet, il a dit qu'il en profiterait justement pour aller voir les électeurs, pour les remercier, compte tenu qu'il avait été absent plusieurs années. C'est un bon geste à faire, ça, Farnell, d'aller remercier son monde?
Oui, je veux dire, je trouve ça juste dommage que ce soit une nouvelle.
T'sais, je ne l'ai même pas mis dans mes manches parce que je me suis dit, je sais qu'on en parle avec vous, puis j'avais la même prétention que toi, Farnell.
Oui, je comprends que c'est une nouvelle, parce que c'est en effet une nouvelle, je ne suis pas en train de remettre ça en question, c'est juste que ça montre à quel point nos attentes sont tellement basses envers le rôle de député.
On va changer de sujet, on va aller sur quelque chose qui fait énormément parler, troisième semaine de guerre en Iran, le détroit d'Hormuz qui est encore fermé. Il n'y a pas beaucoup de pétrolier qui passe. C'est 20% de la production mondiale. On écoute Donald Trump il y a deux jours parler de l'OTAN.
Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it, actually. Very important that we take out the nuclear threat from Iran, and we've done that very strongly, very powerfully. We've wiped out their Navy, wiped out their military in every aspect. Everything is gone. Their leaders are gone.
Tout est réglé en Iran. Les leaders sont morts. J'ai pas besoin d'aide. On va y aller à fond de train avec le pétrole. Mais là, c'est drôle. Deux jours plus tard, se revirent vers les alliés puis ils disaient hey, pourquoi vous m'aidez pas? Là, il y a le Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et d'autres pays, sont six au total, qui ont dit ouais, on pourrait peut-être aller porter main forte, mais ça reste très nébuleux. Farnell, Donald Trump est en train de se planter bien raide avec cette guerre-là.
Ben, faut quand même lui donner que c'est vrai que, entre autres, Mark Carney et plusieurs autres chefs d'État à l'international ont salué les attaques, les frappes contre l'Iran. Je veux dire, peut-être que c'est un peu à contre-cœur, mais ça reste quand même vrai.
En effet.
Mark Carney a dit qu'il appuyait les frappes.
Oui, oui, puis dans les faits, il a tué un des dictateurs les plus meurtriers de l'histoire. Fait que ça, faut
c'est reconnu,
le souligner,
faut le reconnaître.
Que c'est positif.
Alors, M. Trump, quand il dit que ses alliés ont, que l'OTAN, les alliés de l'OTAN ont salué la chose, c'est vrai, mais ça reste que je crois que M. Trump, présentement, est en train d'avoir un dur réveil à la notion de ce qu'on appelle en anglais le « soft power », c'est-à-dire l'espèce de puissance douce, qu'on pourrait dire, la puissance diplomatique qui vient avec le fait d'avoir des bonnes relations avec tes alliés. À ce qu'on sait, la plupart ou presque l'entièreté de l'OTAN n'a pas été avisée que les États-Unis et Israël allaient lancer cette guerre-là avant que ça arrive. Puis après ça, se virer de bord puis demander aux alliés, ouais, venez donc nous aider finalement, tu sais, ça ne marche pas de même. Surtout quand tu as passé la première année de ton mandat à te mettre tes alliés à dos économiquement, à menacer d'envahir certains de tes alliés. Je peux comprendre qu'il y a bien des gens qui disent, écoute, là, on est content que tu vas débarrasser le régime iranien actuel, là, mais gère tes affaires puis on va
ouais,
pas mettre
là,
nos vies.
Les dirigeants des autres pays au Moyen-Orient et dans le Golfe sont vraiment pas satisfaits de pas avoir été informés non plus parce que là, c'est leur puits de pétrole à eux autres qui se font,
ben
qui
oui,
se font bombarder. Là.
L'Iran qui réagit en frappant à peu près tout le monde et n'importe qui dans le coin, je veux dire, c'était très prévisible que les alliés des États-Unis n'aient pas su d'avance que ça s'en venait. Ça aussi, c'est un méchant coup à donner à des gens qui sont supposés être ses amis.
Lambert, 200 milliards de dollars, c'est la demande du Pentagone au niveau du Congrès américain. C'est plus que ce que les Américains ont investi depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Américains ont élu Donald Trump pour pas vivre une guerre. Ça va pas mal à l'encontre de pourquoi ils ont voté.
Il est mieux de se lever tôt en battant pour espérer convaincre assez d'élus de lui donner leur aval pour ça. Parce que présentement, au niveau du Parti républicain, il y a quelques porte-parole, MAGA et quelques élus même qui se sont... qui ont laissé savoir leur mécontentement, mais ce qu'on entend, c'est qu'en privé, là, les gens sont vraiment, vraiment pas contents. The Economist parlait de bouillonner de rage. Effectivement, comme tu as dit, il y en a plusieurs là-dedans qui le supportent d'abord et avant tout parce qu'il a fait campagne sur le fait d'arrêter de se mettre les pattes dans n'importe quel conflit international puis de commencer à se concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis. Et là, ils sont complètement en train de l'échapper. C'est les États-Unis, mais c'est pratiquement toute la planète qui est en train de vivre les contre-coups de cette guerre-là. Tu as des Américains qui sont morts, 13 Américains qui sont morts. Tu as des cercueils qui reviennent aux États-Unis. Ça frappe l'imaginaire. Alors oui, il est complètement en train de l'échapper. Et politiquement, là, ça commence, il commence à faire chaud dans la cuisine, si on peut dire ça comme ça. Là. Les Républicains, je pense que les dernières prédictions étaient de 83% de chance à ce qu'ils perdent la Chambre des représentants aux midterms en novembre, et même au niveau du Sénat, alors que pour plusieurs, c'était impossible pour les Républicains de perdre le Sénat pendant la première année de mandat, mais là, on est rendu à peu près à 50-50 les chances à ce qu'ils perdent le Sénat. Écoute, s'il fallait que les deux chambres flippent de côté, ils s'enverraient très, très menottés pour la suite de son mandat d'ici aux prochaines élections. C'est en train de devenir le point tournant de sa présidence, tu sais, puis c'est comme, on dirait que c'est fou de dire ça après tout ce qu'on a vu passer dans les derniers mois, Epstein, ICE, le Venezuela, tout ça. Mais la différence, c'est que dans ce cas-ci, alors qu'au Venezuela, il pouvait prétendre avoir gagné, avoir réussi sa mission, alors que la même chose pour les premières frappes en Iran, dans ce cas-ci, il n'y a personne là, qui pense que ce gars-là il est dans une position gagnante et qu'il accomplit ses objectifs.
D'accord avec ça, Farnell?
Ben oui, tu sais, je pense que l'analyse est très bonne. Donald Trump, dans son discours d'inauguration, disait que c'était son propre barème. Il disait « Nous allons mesurer notre succès par les guerres que nous évitons. » Et puis, le voilà en guerre. Quand il a été élu par la promesse de ne pas embarquer les États-Unis dans des longues guerres, ce qu'il appelle les « forever wars », maintenant, des espèces de guerres qui finissent plus, qui n'ont pas d'objectif final, qui n'ont pas de finalité claire. Quand ça a commencé, ben, de un, c'est même pas clair si le président avait le mandat légal de se lancer en guerre. Il disait au tout début que c'est pas une guerre, c'est une action militaire préemptive.
Mais rendu à 200 milliards, ben, on est pas ça. Mal rendu en guerre.
Mais alors, tu sais, j'imagine aujourd'hui être un membre du Sénat ou du Congrès en général, membre du Parti républicain, puis cette demande-là arrive à mon bureau, 200 milliards pour cette guerre-là. C'est tough parce que d'un côté, tu peux pas arriver dans les midterms ayant perdu une guerre contre l'Iran. Tu te fais ramasser. Mais de l'autre côté, 200 milliards, le message que ça envoie, c'est que ça va pas être 4 semaines comme guerre, comme le président Trump avait promis au tout début. 200 milliards, ça, c'est une longue guerre. Ça, c'est
et des morts aussi.
Et
là.
Des morts, ça, et ça des cercueils qui reviennent. Ouais. Et pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz qui va probablement rester fermé, inaccessible. Ça va être des mois avec les prix du pétrole qui augmentent. Puis éventuellement, ça va se refléter dans les prix de tout le reste. Si tu es un élu républicain présentement, tu es pogné entre deux très mauvaises options. Soit tu appuies un programme de guerre qui va probablement durer jusqu'au midterms, ou tu ne l'appuies pas. Puis là, il faut que tu arrives au midterms ayant essuyé une perte militaire ou au moins pas une victoire aussi complète auquel le public s'y attend contre l'Iran.
Mais on aurait parlé de ça il y a 5 ans. Jamais on se serait imaginé qu'on pourrait être dans un scénario comme celui-ci. Comment est-ce qu'on peut se prémunir d'un leadership aussi négatif et faible que celui de Donald Trump actuellement pour la suite des choses?
C'est
une leçon qu'on a tirée.
C'est une leçon et je veux dire, je pense que les historiens vont éplucher cette décision-là pendant longtemps. Bon, il y a des questions de timing aussi. C'est sûr que pendant ce temps-là, on est justement, comme Lambert le dit, on n'est pas en train de parler du dossier Epstein, on n'est pas en train de parler de plein d'autres problèmes internes.
Les complotistes disent que c'est pas un addon, là.
Ben, je veux dire, je veux pas faire ce genre de spéculation-là, mais mettons que c'est certainement un avantage qui est facile à exploiter pour l'administration Trump.
Ouais, on est dans le segment... Oh, excuse-moi, Lambert.
Ah, vas-y, Jeff, je vais rajouter. Ben, en fait, c'est... Je trouve ça un petit peu inquiétant pour la suite parce que là, on parle de tout ça, puis tu sais, tu te mets dans ses souliers, puis on commence à le connaître quand même, là, s'il a été président déjà un premier 4 ans, puis là, il est d'autant plus instable depuis qu'il est revenu à la présidence. Mais c'est inquiétant pour la suite. Là, on sait comment ce gars-là là, est un mauvais perdant, disons ça comme
en
ça.
En effet.
Là, tu sens qu'il est en train de complètement perdre contrôle de la situation. Il a perdu le volant. Comment est-ce qu'il va réagir à ça? Ça, c'est super inquiétant. Est-ce que ça va être Cuba? Est-ce que ça va être les États démocrates qui vont écoper, comme on a vu avec ICE? Est-ce que ce sera un autre coup d'éclat à l'international? Ce sera-tu l'Ukraine? Ce sera-tu le Groenland, le Canada? Tu sais, moi, c'est ces questions-là aussi qui me viennent en tête, puis je me dis, tabarouette, quand il va vraiment sentir que la situation lui a complètement échappé, quelle va être sa façon de réagir. Et ça, pour moi, c'est extrêmement inquiétant.
C'est des excellentes questions. Et d'ailleurs, ça nous amène au dernier sujet de ce segment discussion. C'est les vendredis de midi environ, midi 25, avec Lambert Drainville et Farnell Morissette à l'émission On en jase. Pierre Poilievre était de passage au podcast, on dit le podcast le plus populaire au monde, celui de Joe Rogan aux États-Unis. Il a défendu justement la position du Canada face aux États-Unis. On écoute l'extrait.
You know, we love Americans as neighbors and friends, but we want to be uniquely and we want to be sovereign as Canadians. It's our country. It's where we grow up. You're a patriot as an American. I'm a patriot as a Canadian. It's where my grandfather arrived. It's where our collective ancestors put on military uniforms and sailed to fight wars. It's where our grandkids are going to live. We're very proudly Canadian. So we're never going to be the 51st state. And I just wish you'd knock that shit off so that we can get back to talking about the things that we can do as two separate but two separate countries that are actually friends.
Il faut que Donald Trump arrête cette bullshit. C'est envoyé au podcast le plus populaire. Un ancien allié de Donald Trump, Joe Rogan. Lambert, Pierre Poilievre, sa visite aux États-Unis est très positive pour son image.
Oui, oui, bien honnêtement, puis je ne l'ai pas écouté au complet, mais le peu que j'ai, la partie que j'ai écoutée, c'est long, c'est quand même 2h40.
Ouais. Oui, puis tu as écouté la partie politique, tu as écouté pas mal tout, parce que le reste, on parle d'arts martiaux. Là. Ça dépend si tu aimes l'entraînement, les arts martiaux.
Non, mais assez intéressant. Écoute, il connaît ça vraiment beaucoup. Là,
vraiment.
Vraiment. Moi, tu le sais, je l'ai reçu sur mon propre podcast. J'ai de la difficulté à comprendre comment il en est venu à avoir, comment lui et son équipe lui ont bâti la réputation qu'il a présentement au Canada sur la scène politique. Quand tu l'entends dans ce contexte-là, puis tu sais, c'est sûr que c'est toujours risqué. Là. C'est le podcast, c'est un podcast d'abord d'un gars qui est très volatile là, dans qu'est-ce qu'il pense, quel sujet il amène, puis les théories du complot, tout ça. Et c'est très long, donc plus c'est long, plus il y a de risques de se mettre les pieds dans un plat. Et c'est le plus écouté au monde, d'autant plus. Rappelle-toi quand il était allé à Northern Perspective, là, le podcast conservateur plus mineur au Canada, puis il avait dit que Trudeau méritait des peines de prison. Là, ça lui était revenu sur le nez. Mais quand, là, il a réussi, je pense, à faire un bon travail de ne pas se mettre les pieds dans un plat. Et je reviens à ce que je disais, je comprends pas... Pourquoi le Pierre Poilievre qu'on voit dans ce balado-là, qu'on a vu quand moi, je me suis entretenu avec lui, qui est bien honnêtement un gars qui est très intelligent, qui a une bonne culture générale, il est beaucoup plus modéré que l'image que plusieurs ont de lui. Fait que je comprends pas c'est quoi la stratégie que son équipe lui ont bâtie lors des dernières élections et qui perdure un peu depuis. Je comprends pas pourquoi il n'est pas juste plus lui-même quand on l'entend parler. Moi, quand j'étais à la Chambre des communes à Ottawa, je me rappelle l'avoir entendu en chambre. J'étais une verte recrue politique, puis je me disais, tabarouette, c'est qui ce gars-là, Parti conservateur, etc. Puis je le trouvais bien impressionnant. Puis c'est comme si depuis qu'il est devenu chef, il a perdu le Nord. Je ne sais pas si c'est lui, son équipe, ou j'imagine que c'est un peu entre les deux. Mais chose certaine, il est mal conseillé, ce gars-là.
Bien, ça parle-tu de la politique en 2026, du genre être un peu plus polarisant, faire plus de vagues pour faire jaser, et donc peut-être de sortir de ses valeurs personnelles pour être capable d'être élu, pensez-vous, les gars?
Bien, ce que j'ai vu, moi, du podcast hier, c'est un Pierre Poilievre qui essayait surtout de dire à son caucus, « Regardez, je suis de retour à mon être modéré. » Parce que Pierre Poilievre, il est à deux doigts de devoir faire face à potentiellement un gouvernement Carney majoritaire. S'il y a d'autres de ses élus qui quittent le caucus ou qui, pire encore, changent vers les libéraux, il va passer à l'histoire en étant celui qui a perdu la position d'opposition d'un gouvernement minoritaire vers une opposition à un gouvernement majoritaire. Alors, je crois que sa stratégie présentement, presque tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de rassurer sa base et son caucus que non, c'est pas un Trumpiste. Non, c'est pas quelqu'un qui est radical. Il a passé, par exemple, quand Joe Rogan a parlé de la théorie que Fidel Castro était le père de Justin Trudeau, il l'a ri un peu puis il a dit non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, je pense que le signal qu'il essaie d'envoyer, c'est regardez, là, je suis de retour à ma personnalité plus modérée. On peut se parler en nous. S'il vous plaît, là, quittez pas le caucus en allant chercher l'espèce de conservateur léger qui est Mark Carney en comparaison à moi.
Moi, je peux l'être moi aussi. Les gars, c'est toujours un bonheur de vous parler à chaque vendredi dans ce segment de discussion. Je crois qu'on a fait le tour de trois très gros sujets d'actualité. Je vous souhaite un excellent week-end.
Toi aussi, vous autres aussi, tout le monde.
Vous aussi, la gang.
Et on est choyés, on en jase de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, les boys. Lambert Drainville, Farnell, Morisset, segment discussion à chaque vendredi, de midi environ, midi 25. Dans un instant, Boulevard 102, on va parler des travaux du tramway, mais d'un autre angle, c'est-à-dire les services du RTC qui sont modifiés. Mathias Turcotte a mis ses bottes, son manteau, sa tuque, ses mitaines, puis il est allé parler aux gens. Aux arrêts aujourd'hui, à savoir, êtes-vous informé? Vox Pop de Mathias Turcotte, au retour de cette courte pause à Boulevard 102.
Jusqu'à 14h.
Boulevard 102.1.
Émission en jase, il est présentement midi 31 minutes. Pour nous joindre, 418-971-1021, vous le faites en grand nombre. Vous êtes inquiet de ce que Donald Trump pourrait faire après sa guerre en Iran? Je vous comprends. On ne sait pas vraiment où il s'en va. 418-7801, c'est pour nous appeler. Citoyen à commercial blvd.fm. C'est pour envoyer un dossier au chum Mathias qui va le fouiller pour vous. Si c'est vraiment un dossier chaud d'actualité, haha, on va en parler en ondes. Vous pouvez être notre journaliste terrain ou l'être journaliste terrain de Mathias Turcotte, devrais-je dire. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments, c'est notre web radio. D'ailleurs, l'excellente discussion qu'on a eue avec Farnell Morisset et Lambert Drainville va se retrouver sur BLVD.fm. Je viens de dire le mot excellent ou excellente pour la première fois de la semaine. Je m'étais fait dire, je le disais trop. C'est la première fois de la semaine, malheureusement, que je le dis. Je l'ai échappé en ce vendredi midi 32. BLVD 101, l'application App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube, nos podcasts. Tu sais comment je me suis corrigé? Je suis venu pour en dire exemple. Je dis, Colin, là, c'est rentré dans ma tête.
T'es content de ta programmation?
YouTube! Pour nos podcasts, notamment les podcasts sur les entrepreneurs, avec Joannie Fortin. En attendant que Mathias nous parle de ses travaux du RTC, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
La femme retrouvée inconsciente dans le quartier Montcalm mercredi matin est malheureusement décédée. Jeff, il s'agit de Jennifer Drouin, 42 ans, de Lac-Beauport. Elle se trouvait sur le terrain de la maison d'un des membres de sa famille. Les causes du décès sont toujours nébuleuses. Hein? La thèse criminelle serait écartée, mais les policiers ne peuvent pas révéler si la victime présentait des marques de violence, si elle était en état de consommation ou si elle aurait pu subir un malaise. L'acteur américain Chuck Norris est décédé à 86 ans. Il a été victime d'un malaise. Il a été hospitalisé hier à Hawaï. Maintenant, on apprend malheureusement qu'il a quitté ce monde. C'est une véritable star du petit et du grand écran. Chuck Norris, c'était aussi l'incarnation d'un certain rêve américain. Hein, c'est un homme qui est né dans une famille pauvre de l'Oklahoma en 1940. Son père, c'est un Amérindien alcoolique. Sa mère, c'est une Irlandaise qui a élevé seule ses trois fils. François Legault termine son mandat comme simple député de l'Assomption. Donc, il reste député. Il faut dire qu'en quittant son poste de député, M. Legault aurait renoncé à une prime d'environ 300 000 $ qu'il pourra toucher en terminant son mandat. Bernard Drainville s'engage à nommer un ministre de la Construction venant fusionner les responsabilités du travail et des infrastructures. Donc, ce ministre aurait sous sa supervision la Commission de la construction du Québec, la CNESST, la Régie du bâtiment du Québec, le Bureau de normalisation du Québec, la Société québécoise des infrastructures et le Plan québécois des infrastructures. Je vous rappelle que le premier débat officiel de la course à la chefferie de la CAQ entre lui et Mme Christine Fréchette se déroule demain à Québec. Également, le RTC s'attend à ce que les trajets modifiés en raison des travaux liés au projet tramway aient un impact très limité sur ses utilisateurs. Je vais faire 3 points de suspension. Est-ce que les utilisateurs sont d'accord avec ça? Et c'est pour ça qu'on en parle avec Mathias Turcotte.
En effet, Mathias Turcotte, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Excellent. Mathias, Bruno Marchand a posté ceci, v'là quoi, Pascal, à peu près une heure sur ses médias sociaux?
On est rendu peut-être à 3 heures. Il y a 3 heures, il mettait ça, et c'est surtout parti des réseaux sociaux du RTC.
On l'écoute.
On roule, let's go!
So what's your take?
Ça va être compliqué de se déplacer à Québec si on fait rien durant les travaux.
100% d'accord. Qu'est-ce qu'on fait?
Le 21 mars, on va changer 50 parcours, on va créer le 805, on va mettre des mesures préférentielles, des voies réservées, on va avoir un service stable et fiable pour le RTC.
Ça s'ajoute à 29 autres mesures où pendant les entraves, on va prendre soin de vous parce que c'est important.
Assis dans un autobus avec nécessairement un employé du RTC, on parle des travaux qui s'en viennent, des perturbations. Mathias Turcotte, t'es un journaliste sur le terrain, t'as eu l'excellente idée d'aller, puis là je lui ai dit excellente, puis je veux le dire parce que c'est vraiment une excellente idée de Mathias Turcotte d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens qui pérennent l'autobus à chaque jour puis qui vont être pris dans ces perturbations-là. Ils savent-tu ou ils savent pas que c'est là que ça arrive?
Mais ça, c'est intéressant. Puis vous allez voir, là, je vais vous présenter l'extrait de montage que j'ai fait sur cette question-là dans quelques instants. Mais je me suis concentré surtout sur le boulevard René Lévesque parce que le gros du changement pour ce qui s'en vient de demain, des nouveaux tracés du RTC, c'est vraiment de 800 et de 801 qui ne passera plus par René Lévesque. Donc le transit par autobus que beaucoup de personnes prennent par René Lévesque ne se fera tout simplement plus et sera remplacé par la 805. Qui est sur Grande Allée. Donc, le monde qui prennent l'autobus sur René Lévesque vont soit devoir aller sur Chemin Sainte-Foy ou sur Grande Allée pour continuer à aller soit au centre-ville ou soit
à pied.
Vers l'Université Laval. À pied, exactement. Donc, je me suis rendu aux différents arrêts d'autobus sur cet axe routier-là pour demander aux gens quelques questions, à commencer. Est-ce qu'ils sont au courant de ces changements-là qui arrivent demain, je vous le rappelle. Je vous laisse les entendre.
Oui, tout à fait, oui. Ouais.
Je ne savais pas si à partir de demain, mais j'ai su que ça allait changer de trajet là, par la plus haut. Là.
Oui, malheureusement.
Oui, malheureusement, j'ai été mis au courant de ça et c'est assez... Un peu problématique. Mais pas problématique, mais désagréable un peu.
Oui, je suis au courant.
Oui, je sais, ils vont passer sur la grande allée parce qu'il y aura les travaux préparatoires pour tramway. Oui.
Ouais. Non, je suis pas au courant.
Bon, bonne note quand même au RTC, parce que je dirais, on entendait à peu près une dizaine de personnes. 80% à peu près est au courant. Donc, mais... félicitations pour la RTC.
Ça dépend d'où ils l'ont appris.
Oui, ben faut dire, par contre... Ça, il faut leur donner. Puis quand l'administration fait bien le travail, dans toutes les arrêts d'autobus, ces nouveaux tracés sont affichés. C'est affiché jusqu'à quand l'arrêt d'autobus est fonctionnel
très
ou non.
Très bon travail.
Tu sais, je veux dire, la majorité, du moins, était au courant. Parce que là, je tiens à vous dire, toutes les personnes à qui que j'ai parlé, c'est des utilisateurs fréquents.
Puis pour eux, ils avaient appris tout ça du RTC.
Du RTC, oui.
Bon, ben, là, effectivement.
Ben, du RTC ou des médias. Ah, dans le sens. Mais... Puis je veux dire, je pense que ça fait partie de ce travail-là. On informe les médias.
Oui,
les médias
ça fait partie de la stratégie du RTC, en effet.
Exactement. Donc, de ce côté-là, c'est positif. Il y avait quand même des personnes qui n'étaient pas au courant.
Exactement.
Là. La dernière fille que vous avez entendue, elle n'était vraiment pas au courant. Là. Elle était que... Je pense que ça a été une bonne nouvelle pour elle que j'y dise, parce que lundi, ça va probablement aller au mauvais arrêt.
Une très large proportion sont au courant. Donc, bon travail du RTC. Par contre, maintenant, il y a des impacts. Puis on l'a entendu dans ton premier extrait où, oui, malheureusement. Et là, je connais bien la ville. Puis si je pars de René Lévesque puis je monte sur Grande Allée, il y a quand même une bonne pente à monter. Ça doit faire partie des impacts.
Ça fait une bonne marche, puis vous allez l'entendre. La question, c'est comment ça change leur quotidien. Et c'est notamment à une distance de plus de marche.
Pas négativement. Je vais devoir, je pense, marcher un petit peu plus. Ce
qui me fait le plus peur, c'est les travaux et le temps que ça va durer, vu que je vis sur le boulevard aussi. Donc, le bruit, le dérangement, tout ça. Là.
C'est sûr que ça va être plus de marche pour moi pour me rendre à mon endroit, mais s'il faut, il faut.
C'est sûr que ça va faire un grand impact, surtout le fait que les arrêts vont être beaucoup plus loin qu'ils étaient supposés être de base.
J'aurais juste 10 minutes de marche en plus. Ça changera pas grand-chose, juste ça sera un bus différent.
En le sachant d'avance, c'est pas si pire, mais c'est ça. De pas le savoir, ça aurait pu être problématique lundi matin.
Il y a rien de prévu pour la RTC hein, pour monter cette côte-là. T'sais, ils ont des petits autobus. Là.
Ouais.
Ils auraient pu mettre un petit autobus là en permanence. Le monde qui veut pas monter rentre là-dedans, puis le chauffeur les monte quand il y a une couple de personnes dans l'autobus.
Ça aurait pu être une option, oui, parce qu'on entend des réponses, puis... Le monde sait, je vais me déplacer, je vais faire ma distance de marche de plus. Puis honnêtement, les retours étaient plutôt positifs. Là, je tiens à dire, c'est le monde aussi qui était enclin à me parler. Fait que c'est peut-être un monde un peu plus positif.
Ouais, t'as pas été reçu de la même manière par tout le monde dans tes questions. Ça. Mais là, on parle, tu sais, on n'a pas entendu de famille, on n'a pas entendu quelqu'un à mobilité réduite, on n'a pas entendu des gens avec peut-être certains problèmes complexes. Là. C'est tous des gens qui peuvent marcher 10 minutes.
Ben, c'est ça, exact. C'est pour la majorité du temps des personnes qui sont seules. Il y avait beaucoup de jeunes aussi, que c'est des jeunes qui prennent l'autobus pour aller à l'Université Laval par la suite parce que c'est un axe routier où il y a beaucoup d'appartements étudiants, puis que les étudiants, c'est dont beaucoup n'ont pas de voiture.
Exactement.
C'est très efficace de prendre l'autobus puis de se rendre directement à l'université. Donc, je veux dire, ces personnes-là, marchant à 10 minutes de plus, c'est tannant.
Mais je pense aux personnes âgées
c'est
aussi.
C'est tannant. Mais c'est ça, les personnes âgées.
C'est ce qui ressort par texto, c'est ce que j'avais en tête.
C'est là que vient le problème. C'est là que ça devient plus difficile pour eux, c'est sûr.
Le tramway est très polarisant à Québec. Il l'était d'autant plus cette semaine entre Sylvain Junot, le maire de Saint-Augustin de Desmaures, et Bruno Marchand, le maire de Québec. C'est quoi l'opinion des utilisateurs du transport en commun pour le tramway?
Ben c'est l'opinion par rapport au déplacement du RTC puis par rapport aux travaux qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Voici leur réponse.
Moi, je suis très en faveur de la construction du tramway. J'ai très hâte de pouvoir l'utiliser.
C'est sûr que là, ça ne nous accommode plus du tout. Là, on marche plus longtemps. Donc, ça change toutes nos habitudes de vie. C'est pas une bonne chose. Là. À court, moyen terme, c'est pas une bonne chose.
Ce que je pense, c'est qu'on s'adapte pour un meilleur changement. Je pense que Québec a besoin d'un tramway.
Que c'est étonnant, mais que c'est bien parce que ça permettra d'avoir le tramway après, même si ça sera dans plusieurs années.
Bien, c'est un peu incommodant pour aller à l'université, mais je sais pas. Faudrait que je regarde c'est quoi les alternatives qu'ils proposent.
Très intéressant, honnêtement, Mathias, comme question. Ça vient montrer l'équilibre qu'il y a dans la population. Même sans les sondages, il y a un déséquilibre. C'est sûr que pour ceux qui prennent déjà le transport en commun, ils vont être heureux du tramway. Par contre, on l'entend bien, il y a des perturbations. Et ça, Bruno Marchand, il faut que je lui donne, il ne se l'est pas caché, il l'a dit, on embarque dans cette année de chenoute et de perturbation.
Oui, 100%. Puis honnêtement, en sortant sur le terrain, je m'étais dit à quel point les personnes vont être au courant ou non des changements, à quel point là, ça va déranger des personnes. Puis j'en ressors, j'ai parlé à environ une douzaine de personnes là, sur le terrain aujourd'hui, puis j'en ressors avec la majorité du monde savent des changements. La majorité du monde, c'est pas parfait, mais garde, on s'adapte, puis c'est pas la fin du monde. Ça diminue. Encore une fois, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué. Mais pour ces personnes-là, ce que j'ai reçu aujourd'hui, ben c'était pas nécessairement qu'on était fermé puis qu'on était briqué puis oh mon Dieu, ça a pas d'allure. C'est garde, on va s'ajuster puis c'est la vie. C'est un peu ça l'opinion.
Rappelle-nous en terminant quelles sont justement les perturbations les plus importantes, parce que là on reçoit un texto de Bruno qui nous dit hey, le 805 qui est pas supposé partir de la base ville, clarifie-nous ça s'il vous plaît.
Ouais, ben c'est ça, c'est le 801 et le 801 et le 800 présentement qui font le transit entre Pointe-Sainte-Foy vers le centre-ville. Ça va plus passer par René-Lévesque. Le 800, 801 va se concentrer au centre-ville seulement. Va être remplacé, par contre, par un nouveau trajet qui va faire ce transit-là. C'est le 805 qui va partir de Pointe-Sainte-Foy, justement, qui va traverser par Grande-Allée pour aller au centre-ville, colline parlementaire et tout. Donc, c'est ça, le nouveau trajet. Donc, à partir de maintenant, si vous partez de Sainte-Foy, vous voulez aller au centre-ville, c'est soit le 807 qui passe par Chemin-Sainte-Foy, soit le 805, le nouveau trajet que vous allez devoir prendre qui passe par Grande-Allée pour vous y rendre. Également, à noter que les voies réservées sur boulevard René-Lévesque pour les autobus vont être déplacées sur Grande-Allée. Donc, les voies réservées aux autobus à voie de circulation automobile et les voies réservées sur Grande-Allée vont enlever une voie de circulation, évidemment.
Mathias Turcotte court au studio de Week-end 91.9 pour aller raconter justement ces perturbations. Et on se reparle tout à l'heure pour ton dossier sur les escaliers à Québec.
Yes, sir.
Good. Merci, Mathias. Good job, comme à l'habitude.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
Si vous voulez être informé sur Québec, c'est ici que ça se passe, c'est à Boulevard 102.1, c'est à l'émission On en jase, de midi à 14h avec Jeff Fortin, Pascal CV. Pascal, on parle beaucoup de Québec, on va en reparler avec Mathias au niveau des escaliers qui sont désuets. Mais là, faut absolument parler du nouveau scandale informatique. Et non, ça ne touche pas le gouvernement du Québec, ça touche le gouvernement fédéral. On en avait parlé déjà voilà un bon mois ici à On en jase sur Boulevard 102.1. Mais là, les coûts explosent.
Ouais, ben on a connu le fiasco SAQ Click du gouvernement. Là, le projet QRAM, la facture pour sa part est passée de 1,75 milliard à 6,6 milliards de dollars. Et ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. La presse a rapporté ce matin qu'Ottawa, c'est pas l'ampleur des coûts de fonctionnement du système de prestations QRAM. Une fois qu'il sera terminé, ça c'est après 2031, on ne le saura pas nécessairement parce que la facture continue de grimper considérablement et devrait continuer de grimper après la fin du déploiement. C'est là où les experts qui ont été consultés par la presse parlent des dépenses à prévoir pour l'exploitation de QRAM avec un certain goût amer. Donc, après son développement et après son déploiement, ça ne sera pas négligeable le nombre de dépenses qu'on va ajouter. Il y a un professeur associé au département d'informatique de l'UQAM, Louis Martin, qui lui a dit « Généralement, on parle de 10 à 15 % des coûts de développement initiaux par année, mais selon la règle, les coûts de fonctionnement pourraient donc dépasser les 660 millions de dollars par année. » C'est énorme et ça risque d'être un fiasco financier encore.
Pour en parler avec nous, le député du Parti conservateur du Canada, Éric Lefebvre, député de Richmond-Arthabasca, qui est sur le dossier de QRAM depuis plusieurs semaines. Monsieur Lefebvre, merci de participer à l'émission En jase sur Boulevard 102.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Monsieur Lefebvre, 6,6 milliards, c'est ce qui est prévu actuellement. C'est pas du tout ce qui était prévu au début. Mais là, les experts disent on va dépasser en moyenne d'à peu près 600 à 700 millions de dollars par année. Fait que si mon calcul est bon, on va peut-être finir aux alentours de 10 milliards pour QRAM. Ça fait aucun sens.
Mais je vous dirais, c'est encore pire que ça parce que les coûts de fonctionnement vont pas arrêter. C'est des coûts de fonctionnement annuels. Puis vous l'avez bien dit d'entrée de jeu qu'on parle habituellement de 10 à 15 % du développement initial. Donc, ça va être entre 660 millions par année à 1 milliard de dollars par année pour les frais d'opération de ce système-là. On ne sait pas si les licences de logiciels sont incluses. On n'a pas d'informations au niveau de la formation, l'hébergement au niveau du nuage informatique. Alors, naturellement, ça fait 2 mois, moi, je suis sur le dossier, puis j'ai encore beaucoup de questions cette semaine-là pour le gouvernement libéral pour ce dossier-là.
Pourquoi on est aussi pourri?
Écoutez, moi, là, ma question, c'est tout ce qui est qui a pris ces décisions-là. Tu sais, quand on dit que la soumission était à 1,7 milliard, puis ça finit à 6,6 milliards, il y a quelqu'un qui a signé là une soumission qui a accepté ça. Moi, je veux savoir la chaîne de commandement, qui a accepté ces dépassements de coûts-là. Je veux voir la chronologie avec les gens qui sont impliqués. Puis quand moi, qu'on me dit qu'il y a des fonctionnaires qui donnent de l'information, mais le ministère interdit de donner le nom du responsable, c'est ça la transparence du gouvernement? Mais ça, pour moi, c'est inacceptable. Puis je vais avoir des questions là cette semaine pour eux.
Oui, d'ailleurs, à cet effet-là, je vous fais entendre un extrait de Mark Carney à la Chambre des communes. Ça parle du Bloc québécois, mais je sais que vous questionnez beaucoup. Puis on va voir l'extraordinaire transparence de notre premier ministre.
Monsieur le Président, c'est curieux. Le gouvernement a déjà offert une brevetage au Bloc. Sans réponse. Il n'y a pas de réponse pour une brevetage. Il y avait des discussions dans les comités. Oui, c'est intéressant, ça. Alors, c'est une bonne idée d'avoir une discussion avant une enquête.
Le petit rire qu'on entend à la fin, M. Lefebvre, c'est Stephen McKinnon, le leader parlementaire. Il est en train de rire du contribuable qui va voir des milliards de dollars perdus dans ce projet-là.
Ouais, et lui, en réponse, a dit que c'était un dossier qui était exceptionnel. Mais tout ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est la hauteur du fiasco financier dans lequel les libéraux nous ont apporté dans ce dossier-là.
Parce que dans les faits, comme vous l'avez dit, on ne sait pas les noms des responsables. Et là, les libéraux disent, on va vous donner un brevetage parce que ça va bien. Mais ça prend une commission d'enquête à la SACLIC. C'est encore pire que ce qu'on a vu au Québec.
Écoutez, cette ligue, on parle de 500 millions. Ici, on parle de 5 milliards de dollars de dépassement de coûts. Là, jeudi prochain, on va avoir la ministre de l'Emploi et du Développement social, Patsy Abudu, qui va être là, le ministre des Travaux publics de l'Approvisionnement, Joël Lightbaum. Et là, ils vont être en comité, puis ils vont être là pour répondre à nos questions. Puis moi, à la période de questions, ce que je demande depuis le début, c'est que là, maintenant, les libéraux le savent, là, qu'il y a un dépassement de coûts de 5 milliards. J'ai dit, qui va prendre le leadership de ce dossier-là? Là? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à se lever? Puis je laissais passer des secondes. Qui est prêt à se lever? Puis j'attendais. Puis il n'y a pas personne qui a osé se lever puis dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je m'attends, c'est que le premier ministre Carney dise, comme bon gestionnaire, ça n'a aucun bon sens ce qui se passe présentement. Puis comme premier ministre, je vais mettre le nez dans ce dossier-là puis je vais aller chercher des réponses.
Mais tu sais, il y a quelque chose de très important là-dedans. Parce que là, on parle juste des dépassements de coûts. Mais on semble être médiocre quand on arrive à parler de technologie. Au fédéral et au provincial, on semble être médiocre. On ne sait pas combien ça coûte. On accepte de se faire charger des prix faramineux par des firmes privées, des gens qui vont travailler sur le dossier, qui pèsent un peu peut-être sur le crayon en se disant « le gouvernement va accepter quand même ». Il y a toute l'ère technologique qui est importante à voir là-dedans aussi.
Non, mais écoutez, on va prendre un autre exemple. ArriveCan, souvenez-vous l'application ArriveCan. La soumission était de 86 000 $. La facture finale, 60 millions de $.
Mais il est là le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des gens qualifiés qui savent à peu près ça coûte combien, comme dans des firmes privées qui sont capables de... Tu sais, on avait le panier bleu, nous, au provincial, qui a coûté X pendant la pandémie. Il y a des gens qui travaillent là-dedans au privé qui l'ont refait pour le 1/8 du coup. Ils l'ont appelé panier brun. Il est encore en ligne. Puis ils ont voulu démontrer à quel point on est pourri. Puis qu'on sait pas... on connaît pas le domaine technologique. Puis qu'on signe des affaires à la va-vite. Pourquoi est-ce qu'on travaille pas aussi à l'intérieur même de nos paliers gouvernementaux pour avoir des bons pions qui connaissent ces projets-là de structure technologique? Parce que c'est pas juste les dépassements de coûts le problème. Il faut retourner à l'épicentre du problème, là.
Oui, absolument. Puis vous le dites, là, ils ont fait évaluer le système QRAM par les employés de l'État qui l'utilisent, puis ils ont donné la note de 10%. Fait qu'on a un dépassement de coût de 5 milliards, puis le logiciel fonctionne pas. On avait 86 000 aînés qui attendaient leur chèque depuis 8 à 9 mois.
C'est un SAAQ 2. C'est un SAQ clic 2, là, cette fois-ci au fédéral, puis c'est encore les mêmes problèmes de ne pas être capable de gérer cette portion technologique-là.
Oui, mais au-delà de ça aussi, c'est qu'il y a une responsabilité ministérielle. Quand ça relève de ton ministère, là, tu te dois d'aller chercher les réponses. Alors moi, là, les ministres responsables, puis moi, dans un scandale comme celui-là, je passe au-dessus du ministre responsable. Là, c'est le premier ministre lui-même. C'est un scandale de 5 milliards. Le premier ministre doit aller demander des réponses puis de trouver qui a donné et a autorisé ces scandales de dépassement de coûts-là. C'est inadmissible. Puis ça finit que c'est tout le monde qui paye. Tout le monde qui paye. On a passé la dette du pays à l'arrivée des libéraux de 700 milliards de dollars à 1400 milliards de dollars après 10 ans.
On l'a doublé, non. Puis il faut que Mark Carney réponde à la pression comme François Legault l'a fait dans le cas de Satlick au provincial. Pour rappel, on parle avec Éric Lefebvre, député de Richemont-Tabasco pour le Parti conservateur du Canada. Hey, parlant du provincial, M. Lefebvre, êtes-vous encore membre de la CAQ?
Ah, écoutez, j'avais une carte de membre qui était bonne pour plusieurs années, mais disons que maintenant je fais de la politique fédérale, là, je me suis éloigné du provincial, là, je regarde ça.
OK, parfait. Donc, vous irez pas voter pour le nouveau chef de la CAQ, que ce soit Bernard Drinville ou Christine Fréchette?
Non, du tout, je me positionnerai pas, je vais laisser les membres de leur formation politique faire leur choix.
Excellent. Vous avez trouvé comment jusqu'à présent la course à la chefferie de la CAQ?
Ben écoutez, là, il va y avoir encore des débats qui vont être faits. C'est toujours, peu importe la formation politique, lorsqu'il y a une course à l'intérieur d'une formation, ça déchire, on le voit, là, que la formation des députés, des ministres se place dans chacun des partis. Alors, c'est toujours après ça, c'est la personne qui va gagner, c'est de réussir à rallier les membres de sa formation politique. Ça, c'est le défi de toute une formation.
Et dernière question pour vous, comment ça se passe dans un comté comme Richemont-Arthabasca, qui au fédéral est représenté par le Parti conservateur du Canada, mais au provincial est représenté par le Parti québécois avec Alex Boissonneau. C'est quoi les relations qui se créent entre les deux députés, même si vous avez des aspirations complètement différentes avec notre pays?
Oui, ben absolument, vous avez raison au niveau des aspirations. Par contre, Alex et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Alex Boissonneau était journaliste, donc j'ai eu la chance d'échanger régulièrement avec lui. Puis je dois vous avouer là qu'on a développé une très belle relation d'amitié et de respect. Puis moi, je dis toujours, à partir du moment où les citoyens et citoyennes ont choisi leurs députés, on est les députés de tous les citoyens. Fait que moi, quand Alex a été élu, j'ai été lui faire le transfert de tous les dossiers provinciaux. Je lui ai dit lesquels qui avaient un peu plus de sable dans l'engrenage, lesquels avançaient bien, puis lesquels où est-ce que je pense qu'il y aurait du travail à faire. Parce que mon objectif ultime, c'est que les dossiers se règlent. Fait qu'on travaille en étroite collaboration ensemble pour notre région.
Bien, félicitations, M. Lefebvre. Et continuez à questionner, à mettre de la pression sur le gouvernement fédéral du Parti libéral pour qu'on ait cette commission d'enquête-là sur QRAM. C'est un vrai fiasco informatique. Merci pour votre temps.
Ben, ça me fera plaisir de vous donner la suite si j'ai des réponses pour vous.
Hey, bien sûr, lâchez-moi un petit texto, puis ça me fait plaisir de vous mettre en onde.
Au plaisir.
Excellent plaisir, au revoir. C'était Éric Lefebvre, député de Richemont-Arthabasca au niveau du fédéral pour le Parti conservateur du Canada. On revenait sur ce dossier QRAM qui va faire encore une fois beaucoup la manchette à la Chambre des communes la semaine prochaine.
Pour des cochonneries qui vont être mal montées, qui ont été évaluées à 10 % de rendement dans le sens où
ouais.
D'efficacité puis de bien, d'être bien mise en place, 10 % seulement. Il y a un auditeur qui envoyait que c'était 159 $ par Canadien ouais. qui avait été investi. J'ai vérifié, j'ai fait le calcul, c'est 159 $ par Canadien. 6,6 milliards de dollars, ça correspond à quoi?
Ah, ouais, donc.
Ça correspond au World Trade Center.
Ah,
tu les construis,
hein?
Qui étaient entre 4 à 6 milliards de dollars, OK?
Bon.
Ça correspond au pont Samuel de Champlain à Montréal.
Qui
était c'est même plus parce que le pont est à 4,2 mm-hmm. milliards.
Pas mal plus utile qu'un système à 10 % de réussite.
Ça correspond au Big Dig du côté de Boston, qui était à 15 milliards. Fait que beaucoup moins cher, on s'entend là.
Ben oui.
Le pont de Hong Kong était beaucoup moins cher en Chine que le 6,6 milliards de dollars pour Curran.
Merci pour les comparaisons. Les comparatifs, ouch! Ça frappe, c'est pour ça que ça prend une commission d'enquête. C'est pas parce que c'est dans le nuage numérique que ça n'existe pas, cet argent perdu.
Quelqu'un dit que c'est aussi le tiers du tramway à 4,2 milliards.
Oui, aussi. Ah, ce tramway.
Quand on se compare, on se console pas.
C'est ça. À Boulevard 101, du lundi au vendredi, on jase à l'émission d'En Jase, évidemment, de midi à 14h, mais aussi dans tout le reste de notre programmation, parce que c'est Marceau le matin de 6h à 10h, le point de max de 10 à midi, Gravel dans le retour de 14h à 16h, et on a Marceau le soir de 18h à 19h. Mais à partir de ce soir, à partir du vendredi, on vire rock pas à peu près. Ça commence à 18h ce soir avec le Garage à Dan, animé par la légende vivante Dan Caron. On revisite les grands classiques du rock and roll. Les samedis et dimanches, de 7h à 10h, c'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. Version beaucoup plus smooth avec de la musique acoustique.
Ça, c'est ton coup de cœur du week-end.
Mon coup de cœur du week-end, il n'y a pas de doute. 15h, les samedis et dimanches, de 10h à 15h, c'est le Boulevard du Rock. Dan Caron, qui est là les samedis. Colosse, qui est là les dimanches. Et nouveauté sur notre antenne, les Colosses du Rock, animés par nul autre que Colosse. Ça, là, c'est des tunes qui bûchent un peu plus, là, comme la tune que je te fais jouer là, Pascal, c'est vrai. Come on, feel the noise! Hein? Pourquoi, Pascal, j'ai mis Come on, feel the noise? Ah! Parce que ce week-end, vous pouvez gagner des billets pour aller au show de Quiet Riot, le groupe qui chante Come on, feel the noise, et Haldo Nova, l'Agora du Port de Québec, le 7 août prochain. Vous aurez également des billets que vous allez pouvoir gagner pour aller voir le show de Julie Talk au Théâtre Capitole le 29 mars. Alors, restez à l'écoute de Boulevard. Toute la fin de semaine, c'est le meilleur rock en ville qui se passe ici. Deux sujets qu'on va traiter après la pause. Éric Ouellette, notre spécialiste en conflit militaire. Que va-t-il se passer en Iran dans les prochaines heures avec le détroit d'Ormuz qui est toujours fermé? Et le sport avec Alex Laramie. Ich, défaite crève-cœur du Canadien hier. Bévue de Mike Madison. Pire bévue que ce que Max Larouche a pu faire dans le match de Boulevard.
J'allais dire, vas-tu aussi commenter la game des essoufflés?
Ça, on va en parler certainement. T'étais la coach. Tout ça au retour de cette pause à Boulevard 102, l'émission d'En Jase.
D'En Jase, à Boulevard 102.
Précisément 13h06, vous vous demandez qu'est-ce qu'il va faire en fin de semaine? Bien, présentement, c'est moins 2 degrés. Faible neige intermittente pour ce soir avec un minimum de moins 7. Demain samedi, dégagement le matin. On annonce 3 degrés ensoleillés. Par la suite, le mercure va diminuer à moins 8 durant la nuit. La neige intermittente et même principe pour dimanche avec 0 degrés. Donc, quand même un beau week-end pour le début de printemps. Circulation, Pascal.
Il y avait 2 incidents dans la dernière heure. Un sur Félix Leclerc-Est entre le boulevard Saint-Jacques et l'autoroute Robert-Bourassa. Les voies étaient bloquées. Il y avait un accident. C'est remorqué, mais ça a vraiment ralenti le secteur. Où est-ce que ça ralentit également? C'est du côté d'Henri IV-Sud, début de la sortie vers la rue Einstein. Il y avait une entrave à ce moment-là, une panne. Le remorquage a aussi été fait, mais ça ralentit.
Dans le prochain segment radio, on va parler avec Éric Ouellette, notre spécialiste en conflit militaire de ce qui se passe en Iran à l'heure actuelle. Et également, on va faire un tour de l'actualité sportive avec Alex Laramée. Mais avant ça, faisons un tour de l'actualité tout simplement avec Pascal CV.
Oui, bien, travaux dans plusieurs escaliers de la Ville de Québec. Il y a des fermetures à prévoir. On parlait hier de la reconstruction de l'escalier du Faubourg pour 1,4 million de dollars. Eh bien, ça fait partie de 5 escaliers entre la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec qui vont être rénovés ou reconstruits d'ici 2027 pour un total de 4 millions de dollars. L'escalier Frontenac, l'escalier Lépine, l'escalier La Chapelle, l'escalier des Francis-Saint et celui du Faubourg vont devoir être à votre agenda en termes de fermeture si vous êtes des usagers réguliers. La femme retrouvée inconsciente dans le quartier Montcalm mercredi matin est malheureusement décédée. Il s'agit de Jennifer Drouin, 42 ans, de Lac-Beauport. Elle se trouvait sur le terrain de la maison d'un des membres de sa famille lorsqu'on l'a retrouvée inconsciente. Les causes du décès sont toujours nébuleuses. Jeff, la thèse criminelle est écartée, mais les policiers ne peuvent pas révéler si la victime présentait des marques de violence, si elle était en état de consommation où elle a subi un malaise. L'acteur américain Chuck Norris est décédé à 86 ans. Il avait été hospitalisé hier à Hawaï. C'est une véritable star du petit et grand écran qui, je sais, va vous manquer fortement. Mais j'entendais Mario Dumont ce matin dire que la résurrection de Jésus s'en vient. Là. Mm-hmm. C'est peut-être un bon moment pour Chuck Norris.
Ah, ça va être Chuck avec les arts martiaux. Il va trouver un moyen d'en venir clencher un méchant.
François Legault terminera son mandat comme simple député de l'Assomption. Faut dire qu'en quittant son poste de député, M. Legault aurait renoncé à une prime d'environ 300 000 $ qu'il pourra toucher en terminant son mandat. Bernard Drinville s'engage à nommer un ministre de la Construction. Il veut fusionner les responsabilités du travail et des infrastructures. Je vous rappelle que le premier débat officiel de la course à la chefferie de la CAQ entre Bernard Drinville et Mme Christine Fréchette va se dérouler demain à Québec. Et autre rappel à faire, Jeff, les trajets seront modifiés dès demain au RTC pour les travaux dits assez préparatoires du tramway. Là. Ça va affecter notamment les métrobus 800-801 dont les trajets sont écourtés avec l'arrivée du métrobus 805.
Déjà trois semaines de ce conflit en Iran qu'on peut appeler maintenant une guerre parce que quand les États-Unis demandent 200 milliards de dollars, quand le Pentagone demande 200 milliards de dollars au Congrès américain, on est en droit d'appeler ça une guerre. Et pour en parler avec nous, on a notre spécialiste en conflit militaire, Éric Ouellet. Éric, comment vas-tu?
Ça va bien. Pardon. Ça va bien, oui. Tout est beau ici.
Parfait. Éric, est-ce que les Alliés vont venir aider les États-Unis pour justement réouvrir le détroit d'Ormuz, notamment, là, je pense à la France, Royaume-Uni, Canada?
En ce moment, il y a des discussions sérieuses sur le sujet, mais ce serait une aide, je dirais, indirecte, c'est-à-dire en protégeant le trafic maritime dans la région du détroit d'Ormuz. Évidemment, ça soulagerait un petit peu là, M. Trump politiquement et l'économie, bien entendu, mais il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait une participation directe au conflit.
La variation entre l'État et l'humeur de Donald Trump quant à sa perception de l'OTAN est variable à chaque jour. On a besoin, on n'a plus besoin. Manger de la chenoute, finalement, rembarquer avec moi. Ça dit quoi de la gestion de Donald Trump dans le conflit?
Ben, écoutez, M. Trump, suit beaucoup ses intuitions du moment, là. Donc, il faut en prendre, il faut en laisser. Je pense que c'est plus important de voir les gestes qui sont posés plutôt que ses déclarations. Je peux vous donner un petit exemple, mais l'armée américaine a changé ses systèmes d'artillerie avec des lance-missiles qui sont conçus pour aller se battre en Europe. Donc, dans la réalité des faits, le discours de M. Trump, il y a quand même une différence relativement importante.
Éric, tu es professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Je veux te parler de défense parce qu'on a autant entendu de la bouche de Donald Trump que de la bouche de Benjamin Netanyahu, le président d'Israël, que l'Iran était sur le point de tomber. Après trois semaines, c'est pas encore arrivé et même l'Iran attaque des sites stratégiques au Moyen-Orient du pétrole. Est-ce que ça te surprend?
Ça me surprend pas que l'Iran ait bloqué le détroit d'Ormuz. Ça, c'est clair que c'était dans les cartes. Puis d'ailleurs, l'administration américaine avait été avertie de cela. Qu'il y ait des attaques aussi intenses face à leurs voisins, ça, c'était moins prévisible. Et surtout qu'ils continuent là, malgré leurs voisins qui commencent à monter le ton très sérieusement. Donc, je pense que l'administration américaine avait été avertie par leurs spécialistes, mais M. Trump et ses conseillers ont décidé de ne pas prendre ça en considération autant qu'ils auraient dû.
Est-ce que ça peut couper les liens entre les autres pays du Moyen-Orient, je pense à l'Arabie saoudite, par exemple, avec les Américains, peut-être pas couper, mais les affaiblir énormément avec ce qui se passe à l'heure actuelle?
Ça pourrait tourner comme ça, mais en ce moment, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite, qui est quand même le grand rival de l'Iran, qui, dans les dernières années, il y avait eu un certain rapprochement entre les deux pays. Maintenant, tout ça a fondu comme neige au soleil. Et il faut s'attendre à ce que les pays du Golfe et l'Arabie saoudite vont probablement être plus près des Américains, en tout cas pour le court terme. Est-ce que ça va avoir un effet sur le long terme? Ça dépend de comment la guerre continue. Et il y a un risque que ça continue, quelque chose qui soit sporadique. Là. Il y a des attaques israélo-américaine contre l'Iran à toutes les 6 mois, là, si il n'y a pas eu de résolution finale au conflit.
Beaucoup de pays qui ont pris des mesures bien avant que ça éclate en voyant ce qui se passait dans les relations géopolitiques. On parle en France d'un retour à l'aide militaire pour un peu tout le monde. On parle de gens qui ont essayé de parfaire leur économie au centre même de leur pays, être moins dépendants des autres. Pour le Canada, qu'est-ce qu'on pourrait en retirer de positif?
De positif, je pense que ça lance le signal au Canada de s'équiper de capacités pour intervenir sans avoir le soutien des Américains. Donc, ça manque beaucoup au Canada. Presque toutes nos opérations militaires sont conçues avec un soutien américain derrière. Et ça renforce le message qu'il va falloir être capable d'opérer seul ou avec nos alliés européens. Et on n'est pas du tout rendu là encore.
Pour rappel, on parle avec Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, souvent quand il y a un conflit qui éclate comme ça dans le monde, un nouveau conflit, on en vient à oublier les anciens. Il se passe quoi à l'heure actuelle sur le terrain en Ukraine?
Les choses continuent en Ukraine, c'est-à-dire que les Russes continuent à avancer très tranquillement, à prendre un petit village de temps en temps. Les Ukrainiens, bien entendu, sont assez inquiets parce que la guerre en Iran contre l'Iran consomme énormément de systèmes anti-aériens. Et c'est possible que ce qui avait été promis à l'Ukraine ne se rende pas en Ukraine parce qu'ils en ont besoin contre l'Iran. Ils sont assez inquiets de tout ça. Et les Européens ont vraiment beaucoup de difficultés à augmenter leur production sur ces questions-là. Donc, ils ne pourront pas combler le manque à gagner. Donc, les Ukrainiens sont inquiets. Mais on verra comment les choses vont se dérouler.
Parce que là, avec Donald Trump qui s'occupe uniquement de l'Iran, ça laisse beaucoup de place à Vladimir Poutine et ça met sur la glace, j'imagine, les traités de paix là, qui est en train de se négocier.
Ouais, quoique, bien honnêtement, M. Poutine n'était pas très sérieux avec tout ça. Là. C'était déjà sur la glace. Maintenant, c'est plus évident que c'est sur la glace. Tenté aussi longtemps que... Oui?
Non, c'est bien. J'allais te présenter. J'allais dire que tu... Éric Ouellet, merci beaucoup. Mais est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
Non, tout simplement que les choses ne changent pas en Ukraine du point de vue des négociations de paix. Il n'y a pas de changement.
Merci beaucoup, Éric Ouellet, notre expert en conflit militaire. Merci pour ta présence à On en jase. Et on se reparle nécessairement la semaine prochaine parce que cette guerre-là en Iran ne sera pas terminée.
Oui, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci. Salut, Éric. Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Le conflit-là va continuer, Pascal, qu'on est rendu à demander 200 milliards au Congrès américain. C'est que ça ne se terminera pas la semaine prochaine.
Mais je suis quand même contente d'entendre que ça peut être fait de façon sporadique, fait un petit peu moins intense comme on a connu dans les dernières semaines.
En effet.
Puis je vais me garder une question pour la prochaine fois. T'sais, on parlait d'attentats terroristes, de possibilités.
Oui, oui.
Ça demande une certaine organisation. Mm-hmm. Ce n'est pas toujours des loups solitaires qui... Je me demande si on est encore à risque.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y en avait eu une dans le premier week-end, mais depuis ce temps, il n'y en a pas eu d'autres aux États-Unis. Exactement, 13h17, on vient de faire le tour du conflit en Iran. Et là, on va aller parler de quelque chose de plus léger, c'est-à-dire de sport avec notre journaliste au 99.5 Montréal, Alex Laramé. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme, on est prêt.
Good, good, good. Alex, avant de parler de cette défaite du Canadien, je veux que Pascal nous raconte son expérience en tant qu'entraîneur en chef de l'équipe des Essoufflés de Boulevard qui ont perdu hier 3-2 face à la formation d'auditeurs de Bellechasse.
Vous avez tellement d'attentes envers moi. Ça a commencé par Yann qui me fait un signe puis qui m'amène à traverser la glace puis à dire « t'es notre coach aujourd'hui ».
Comment t'as trouvé ça? Ça pue-tu trop sur un banc de hockey?
C'est la première chose que j'ai remarqué. Je me suis assise puis ça sentait la cadavre. Mais tu sais, un bon cadavre. J'adore en décomposition depuis... Puis ça commençait.
Ouais.
Ça veut dire vos poches de hockey, les gars.
Excellent.
C'est d'une horreur totale. Mm-hmm. Ensuite, j'ai aimé apprendre qu'il y a un côté droit puis un côté gauche sur un banc.
Oui.
Les attaquants d'un bord, les défenseurs de l'autre.
Indépendamment des périodes.
Ben oui, plus ça a changé de bord à un moment donné. Exactement. Je comprenais rien, j'étais tout le temps dans les jambes.
Il faut toujours que les attaquants changent plus vers le filet adverse et les défenseurs vers le propre filet.
Super intéressant. Clairement, je comprenais pas à quel point vous changez souvent. C'est-tu parce que vous n'étiez pas en forme comparativement à une équipe normale
comme
les Canadiens?
Non, c'est normal, ça change beaucoup. Là.
Aussi rapidement que ça.
Hey, Ligue nationale, ils font 45 secondes sur la glace puis ils changent.
T'es sérieux?
Oh, oui.
Je pensais que c'était Max Larouche avec son souffle court.
Okay. Ben là, justement, tu m'amènes, je laisse avoir nos animateurs. Max Larouche, Mathias Turcotte, Yannick Marceau. Comment tu les as trouvés? C'était trois de nos quatre défenseurs.
Le pire, au terme de forme, c'est Max.
Ça, c'est clair.
Condition...
Je pensais qu'elle allait mourir après la deuxième période quand je l'ai vu retraiter vers le vestiaire.
Je te dirais cinq minutes plus tard.
Parfait.
Okay. Ensuite, Mathias Turcotte.
Il a bien joué.
Il a très bien joué. Très essoufflé, par exemple.
Ah, ouais! Mais le kid est essoufflé.
Oui, mais on voit qu'il fait ses preuves. Il veut faire ses preuves en premier
mais
but,
là,
quand même.
Mais là, il va falloir, là, parce que toi, tu fais beaucoup d'activités physiques, Pascal, va falloir que tu leur parles aux jeunes.
Bien, j'aimerais ça qu'ils me
suivent. Parce que là, Larouche 24, Turcotte 22, puis ils sont essoufflés.
C'est
là.
Déplorable, hein? Surtout que moi,
très déplorable.
Je suis rendu sportif, mais je l'ai pas tant.
Ben c'est ça, t'as monté le Kilimanjaro, là. Fait que là, il va falloir qu'ils suivent la parade.
Qu'ils suivent. Ouais. Yannick Marceau m'a surprise par rapport à son souffle. Ouais. Mais il patine aussi carré qu'il marche.
Oui.
Sauf qu'il y a un sapristi de snap. Moi,
t'as fait un snap à un moment donné.
Oui, puis il y a une colère à évacuer. T'sais, lui, il plaque-le pas trop. Là.
C'est ça. Alex Laramé, tout ça pour dire que l'équipe de Boulevard a perdu encore une fois. Et ce, pour une troisième année consécutive. L'an prochain, Alex, tu mets-tu les patins pour Boulevard?
Ah, va peut-être falloir. Hein. Je suis certain qu'avec Pascal, vous étiez très bien coaché. Le plan de match était à point. Mais là, ça semble être la condition physique des joueurs qui laissait à désirer. Fait que je vais essayer de rehausser la barre l'an prochain.
Excellent.
Tu es en train de me niaiser un peu, mais sache que grâce à mon intervention auprès de l'arbitre, on a été capable de compter un but hier.
Oui.
Hein. Je savais pas sur quoi j'intervenais, mais j'ai demandé une punition.
Exactement.
Ça les a fait souffler et compter.
Parce que là, Alex, tu fais partie de la grande famille de Boulevard. Tu fais les sports dans le retour. Tu es notre chroniqueur sportif en nageuse. L'an prochain, faut que tu sois sur la patinoire. Les gars ont besoin d'aide. Parlant de joueurs qui ont eu une petite bulle au cerveau, malheureusement, ça va à Mike Madison hier. On écoute le tout.
Il remet vers Kane, un dégagement récupéré par Matheson.
Le défenseur le plus fiable du Canadien flanché à 3 minutes 23 à faire au match et ça donne une victoire sur un plateau d'argent Red Wings. Si bien que ce matin, on se réveille, on regarde le classement. 84 points Montréal, 84 points Boston, 84 points Détroit, 83 points Islanders, 83 points Columbus. Aïe, 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 c'est toute qu'une course aux séries.
Ah ouais, la course est vraiment serrée. Là, c'est vraiment plate parce que le Canadien jouait un match à l'extérieur pratiquement parfait. On n'a pas donné grand-chose. C'était du hockey très serré. On a réussi à ouvrir la marque en avantage numérique avec Juraj. Mais Mike Matheson s'est transformé en Max Larouche là, pendant l'instant d'un moment. Il l'a complètement échappé puis ça a amené finalement au but gagnant. Là. C'est malheureux, mais ça nous rappelle le hockey des séries. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Une erreur peut faire totalement la différence. Puis c'est exactement ça qui est arrivé hier. Et tu l'as dit, maintenant au classement, c'est plus serré que jamais et les matchs sont plus importants. The biggest game of the year. À chaque match, maintenant, on est vraiment là.
Tu viens de parler de match des séries et Chris Pronger, sur les ondes de Sportsnet, l'ancien défenseur des Ducks d'Anaheim et des Flyers de Philadelphie, samedi soir dernier, a dit « Le Canadien fera jamais long feu en série avec la façon dont il joue parce que c'est une équipe rapide, une équipe petite, une équipe offensive et en série, le jeu a tendance à se resserrer. » On l'a vu d'ailleurs cette semaine dans les matchs contre Détroit et Boston. T'en penses quoi?
Ben moi, je pense que le Canadien peut quand même tirer son épingle du jeu en série pour deux raisons. Un, à 5 contre 5, on reste un club qui est très, très bon. Cole Caulfield vient de marquer son 40e but de l'année. Moi, je me souviens, quand Cole Caulfield est arrivé, on parlait de lui en avantage numérique. Dans les trois dernières années, dans tous les joueurs qui ont marqué au moins 100 buts, il y en a seulement 20, c'est le deuxième joueur qui a marqué le plus de buts à 5 contre 5.
Wow.
Caulfield est bon à 5 contre 5, le reste de l'équipe aussi. Fait que ça, c'est le genre de truc qui se transpose très bien en séries éliminatoires. Pour l'aspect physique, je suis obligé d'être un peu d'accord avec lui. Là. Ça reste qu'on est une petite équipe, notamment en défense. Je veux dire, tu sais, on l'aime beaucoup. Là. Lane Hutson est super bon. Alexandre Carrier aussi, on l'adore, c'est un Québécois. Mais ça reste des petits défenseurs. Puis quand on regarde dans les dernières années, souvent les brigades défensives, ça prend des défenseurs de 6 pieds. pour être capable justement de faire face à l'échec avant des équipes. Donc, c'est sûr qu'il va falloir ajouter un petit peu de poids, mais je pense pas que personne s'attend à ce que le Canadien gagne la Coupe Stanley cette année. Fait que je pense que Chris Pronger a juste parlé d'un peu de l'évidence de ce que tout le monde voit. Mais selon moi, ça n'empêchera pas le Canadien quand même de pouvoir tirer son épingle du jeu.
Les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé justement du coach des Canadiens. Habituellement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous parlez de Martin Saint-Louis ou de Bergevin ou quoi que ce soit. Est-ce que finalement, il fait la job? Là? Vous êtes calmé ces commentaires négatifs sur Saint-Louis?
Ben moi, Saint-Louis, personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un super bon communicateur. On voit notamment le travail qu'il a pu faire avec certains joueurs, notamment Cole Caulfield. Je pense que sans Martin Saint-Louis, je ne suis pas certain que Cole Caulfield réussisse à marquer 40 buts dans la Ligue nationale. On ne le saura jamais, là, mais visiblement, il y a un super bon impact sur lui. Moi, la chose qui m'agace des fois avec Saint-Louis, c'est qu'avec certains journalistes en particulier, on sent qu'il n'est pas très réceptif à leurs questions. Il n'aime pas être questionné sur son système de jeu. Fait que des fois, on sent qu'il est irrité un peu par les questions des journalistes. En même temps, on peut comprendre. Je veux dire, le gars, il parle aux journalistes deux fois par jour. Il parle plus aux journalistes que le premier ministre du Québec. Fait que je peux comprendre d'être toi. Non, mais c'est vrai pareil. Là,
non, c'est vrai, certain.
Fait que je peux comprendre des fois qu'il est un peu tanné, là, mais malheureusement, t'es payé des millions de dollars, ça fait partie de la job, tu dois répondre aux questions. Fait que moi, c'est peut-être la
seule millions?
Chose que j'ai contre Martin Saint-Louis. Ben oui,
j'ai hâte de réclamer mon chèque d'hier.
Oui, il est payé des millions de dollars, Martin Saint-Louis, c'est clair. Islanders de New York qui sont en visite à Montréal ce samedi. C'est toujours émotif parce que c'est Patrick Roy qui est l'entraîneur des Islanders. Et là, pour ajouter à ça, les Islanders et le Canadien, il y a juste un point qui les sépare. Ça va peut-être être dans les équipes repêchées. Ça va être extraordinaire le match de samedi.
Ah oui, ça va être un grand spectacle qui va se donner, tu l'as dit, avec la présence de Patrick Roy. C'est sûr que ça rajoute un peu, un peu à l'enjeu. Puis on le sait, ils nous ont battus récemment, là, je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc évidemment, on veut se reprendre. Puis on a un autre match contre les Islanders. Là, en fait, c'est l'avant-dernier match de la saison du côté de New York. Et tu l'as dit, là, avec le classement, c'est peut-être ces matchs-là qui vont décider des équipes qui vont avoir les dernières places pour les séries. Mais maintenant, tous les matchs sont super importants. T'sais, tous les points, même dans quelques semaines, on affronte les Rangers. Même si c'est un club qui n'est plus en série, faut aller chercher ces points-là. Mm-hmm. Donc oui, c'est crucial. Puis avec Matthew Schaefer et Patrick Roy, ça va donner un bon spectacle.
Alex, je termine avec une petite note NFL. Max Crosby, qui avait été échangé aux Ravens de Baltimore par les Raiders de Las Vegas, n'a pas passé les tests physiques. Donc les Ravens ont dit on retourne à Vegas. Bon, ils ont signé Trent Hendrickson, donc tes Ravens sont corrects. Mais là, il se passe quoi avec Max Crosby? On n'en entend plus parler. Votre choix à Vegas, tu sais. Semble que quand tu échanges un joueur, c'est dur de le ramener dans ta formation.
Ouais, c'est sûr que c'est une situation assez malaisante là, du côté de Las Vegas. En fait, Max Crosby est sorti, je pense, dans les derniers jours sur son podcast. Il a parlé justement de sa visite avec les Ravens parce qu'il s'est déplacé du côté de Baltimore justement pour faire l'examen physique. Il a dit que dès le moment qu'il est arrivé, il sentait que l'énergie était pas là. Il a rencontré le directeur général seulement en fin de journée. Habituellement, t'as le coach, t'as le directeur général qui vont t'accueillir quasiment à la porte d'entrée. Et il sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Puis dès le lendemain, il a appris justement que l'échange était terminé. Donc là, il retourne du côté de Las Vegas. Lui, c'est vraiment un gars que Vegas a tatoué sur le cœur. Les Raiders, c'est son équipe depuis qu'il est repêché. Puis je dirais que c'est un peu l'âme de l'équipe. Il représente très bien, si on veut, l'âme des Raiders. On entend déjà que l'équipe chercherait peut-être à l'échanger, mais là, à cause justement du test physique raté, ben sa valeur a diminué au niveau du marché des échanges. Fait que, honnêtement, les Las Vegas, c'est vraiment une patate chaude qui sont pognés avec. Heureusement, le bon côté, c'est que Max Crosby, c'est un joueur élite, donc s'il revient en santé, même s'il reste dans l'équipe, il peut apporter. Mais je pense qu'il va avoir une bonne discussion à avoir avec le directeur général avant que la saison commence.
Clairement, on va continuer à suivre les activités de la NFL parce que le repêchage approche à grands pas. C'est dans un peu moins d'un mois. Alex Laramain, merci beaucoup. On se reparle lundi pour ce match du CH de samedi.
Ouais, on se reparle lundi et bon week-end.
Hey, bon week-end, bon salut week-end. Alex Laramain, nouveau joueur des Essoufflés de Boulevard 102.1. On a closé ça de
notre
là.
Notre grue pour l'an prochain. Hey Jeff, en passant, moi, c'est correct, j'ai pas besoin de millions, je peux juste prendre la prime de François Legault puisqu'il reste jusqu'à
300 000 $?
300 000, ça me va pour hier.
Ouais, ouais, je pense que c'est un bon salaire. C'est un salaire pleinement mérité. Peut-être plus que François Legault, finalement. Pascal, on parlait de forme physique. Il y a le défi des escaliers à Québec. Tu sais, la course.
Oui.
On monte, on descend les escaliers. Oui. Je l'ai faite une fois. C'est sûrement la course la plus tough que j'ai faite de
ma vie.
Ah ouais, c'est
vraiment
difficile.
Je savais pas que t'es compté en termes de temps. Ouais. Je pensais que tu fais prendre ton temps puis c'était juste de le faire.
C'est vraiment difficile. 18 kilomètres, t'es toujours dans les escaliers. Mais là, il y a un autre défi que les escaliers à Québec. C'est le défi qui tienne.
C'est le défi qui tienne. C'est le défi, c'est le défi pour les gens aussi de circuler entre la haute ville, la basse ville, quand on va avoir des soit reconstruction totale ou des rénovations sur 5 de nos escaliers.
Exactement. Conférence de presse de 2 conseillères municipales concernant justement les escaliers ce matin. Mathias Turcotte y était. Il vient nous voir en onde immédiatement après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase, pour parler d'escaliers. On en jase. 13h33 minutes, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, l'émission On en jase. De 14h à 18h, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. Et le garage à Dan ce soir, parce qu'on est vendredi de 18h à 20h. Une cause qu'on a à cœur, moi et toi, Pascal, c'est les patrons. Et le patron lapin de retour pour Pâques offre à vos employés une reconnaissance chocolatée en vous procurant des patrons lapins du patron Rocamadour. Une campagne qui existe depuis 1978. Ma blonde vient d'en acheter.
Ah, oh, je suis contente.
Elle m'a envoyé le reçu. Elle a dit avoir votant parce que c'est pour les patros. Donc, ça peut être patro Camado, patro Charlebourg, patro Laval. Fait que je vais aller voir mes chums du patro Charlebourg en sortant d'ici. Puis je vais aller ramasser les lapins.
Ça vaut la peine. On achète du chocolat de Pâques. Pareil. Mais puis c'est toujours du chocolat en passant de bonne qualité. On fait affaire, entre autres, l'année passée, c'était Laura Sécor qui faisait affaire avec Patro Lapin. Oui. Puis je viens de vérifier cette année aussi. Fait que vous avez une bonne qualité de chocolat au lait ou de chocolat noir à donner. Puis vous pouvez gagner aussi des prix parce que tu as tout le temps des prix quand tu achètes le Patro Lapin.
Hey, on a gagné 1 000$ en épicerie l'année passée au IGA.
Ça fait une belle différence.
Ça fait une très, très belle différence. PatroLapin.com pour vous procurer ce très beau et ce très bon lapin. Il y a des prix à gagner. Tu l'as dit, Pascal, d'une valeur de 5 000$. Alors, n'hésitez pas, croquez pour le patro et gagnez gros. Mathias Turcotte, une deuxième présence avec nous aujourd'hui.
Oui.
Merci d'être là.
Bonjour.
Très apprécié. Après, t'es allé faire un vox pop. T'es allé écouter 2 conseillères municipales, Hélanie Lepage et Mélissa Coulombe-Leduc, concernant l'état de nos escaliers. Parce que hier, en pleine émission, Pascal, tu nous dis « Hey, l'escalier du Faubourg, 1,4 million. » Mais pourtant, il était censé être sécuritaire.
On nous dit tout le temps ça. Je sais pas si c'est la même chose pour le pont de Québec puis le pont Pierre-Laporte.
C'est ça,
ça semble-t-il, ils sont bien corrects.
T'es censé être sécuritaire correct, il n'y a pas de trop. Paf! T'as coup, hein? Faut l'enlever, faut en remettre un autre pour 1,4 million.
On fait pas juste le rénover, là.
Mais non.
On le reconstruit.
Donc là, moi, je monte souvent de la Basseville à Hauteville quand je vais voir mes chums de gars à Basseville, puis il y a toujours des escaliers. Je me dis, es-tu correct? Es-tu pas correct? Qu'est-ce qui se passe avec là? Je mets-tu mon pied là ou je le mets à côté? L'état de nos escaliers, qu'est-ce que ça dit, Mathias Turcotte?
Bien, de ce qu'on dit du côté de la ville, c'est que c'est sécuritaire. Ça on ne garde pas, puis on a gardé cette ligne directrice-là. Là, au début du point de presse, ce qu'on dit, c'est on met de l'argent dans les escaliers, puis je vais vous dire le montant dans quelques instants, mais pour l'instant, on veut entretenir tout ça pour que ça reste sécuritaire, mais en ce moment, ça l'est déjà. Donc, c'est 3,6 millions pour l'entretien de 5 escaliers qui seront investis. On dit environ, là, parce que les appels d'offres restent à être faits, mais c'est les évaluations de la ville présentement qui placent ça à 3,6 millions. D'ici 2027, on a parlé de l'escalier du Faubourg qui en fait partie. On parle de 1,4 millions. Ça va être durant l'été 2027. Mais après le Festival d'été de Québec, on l'a précisé. On parle de l'escalier des Franciscains aussi qui avait été... qui avait été démoli en raison d'événements météorologiques en 2024 et 2025. Donc, lui, on va le reconstruire. Ça va coûter 1,7 million environ. Ça va être de mai 2027 à octobre 2027. On va également faire des travaux sur 3 autres escaliers. On parle de l'escalier Frontenac, l'escalier d'Épine et l'escalier de la Chapelle. Les premiers travaux à noter parce que 4 des 5 escaliers, ça va se passer en 2027. Par contre, pour l'escalier Frontenac, c'est à partir du printemps 2026. Donc, dans quelques mois à peine, on va remplacer des marches parce qu'il y a des marches qui ne sont pas nécessairement jugées parfaites, là, sont un peu croches. Fait qu'on dit l'escalier reste sécuritaire, mais c'est pas l'idéal pour monter l'escalier.
Non,
on peut
exactement.
S'enfarger, tomber et tout. Donc ça, c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui, une enveloppe de 3,6 millions qui va être assumée à 100% par la ville. Donc pas de provincial, pas de fédéral, rien. Ce qu'on dit, c'est que l'objectif, justement, c'est de rénover ces escaliers-là ou tout simplement les reconstruire, tout en gardant leur authenticité. Par exemple, avec l'escalier du Faubourg, comme l'explique Mme Hélénie Lepage.
Bien, pour ce qui est de l'escalier du Faubourg, on l'a mentionné notamment, l'idée c'est vraiment de le reconstruire à l'identique selon la volonté de Charles Baillargé, l'architecte qui les a imaginé à l'époque. Puis présentement, c'est sûr que le projet de M. Gaylor, là, je ne peux pas le nommer, il est très emballant. C'est un projet super intéressant. Comme Mélissa l'a si bien dit, les escaliers, c'est très propre à Québec. Même que Montréal commence à en parler, là, c'est dire que si ça les intéresse, il y a un intérêt marqué pour nos escaliers qui nous distingue.
Mathias, c'était-tu prévu dans le PQI, ça, ce 3,4 millions-là?
Non, je pense pas.
Non,
en fait,
hein?
Non.
Donc, ça veut dire que c'est de l'argent qu'il va falloir aller chercher.
De l'argent supplémentaire,
parfait.
Exactement.
J'ai une super bonne suggestion, Pascal. 1 million pour déneiger piste cyclable. Même le devoir l'écrivait à matin que ça sert à rien.
Toi, c'est vraiment ta place par excellence pour aller chercher de l'argent.
Non, mais là, plus de monde qui passe dans l'escalier que ces pistes cyclables.
Si on y va par ordre de priorité, je suis d'accord, vraiment.
Ben, pour le Faubourg, c'est environ 200 à 400 personnes qui passent ça par
exactement,
jour.
Exactement, par jour.
Effectivement, il y a plus de monde.
Puis pour vrai, c'est un énorme détour, hein, si jamais tu prends pas l'escalier.
Ben non, c'est ça. Ouais. Je veux dire, c'est quand même des nécessités pour beaucoup de personnes qui se déplacent en marche entre la basse ville et la haute ville.
Là, Mathias, je connais Bruno Marchand. Il veut toujours des idées de grandeur. Fait que là, j'imagine qu'on va essayer de nous patenter de quoi avec l'or.
Oui, ben c'est juste que Thomas, ce que nous expliquait Denis Lepage, qu'on peut rêver en grand pour ces escaliers-là.
Est-ce qu'après, il y aurait... c'est vraiment, on rêve, là, on peut s'imaginer à peu près ce qu'on veut avec ce projet-là pour l'instant, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des œuvres d'art qui sont ajoutées en haut de l'escalier, en bas de l'escalier? Je pense que tout ça peut être à considérer, mais effectivement, on veut quand même conserver là, la valeur patrimoniale des escaliers, parce qu'ils sont là depuis très longtemps.
J'ai vu ta petite face, là, la saveur, faire...
C'est de l'argent pour ça.
C'est ça.
Tu sais... Ça peut toujours être ajouté dans le
temps. Il y a 1 million pour les pistes cyclables. Non, c'est vrai.
Mais ça peut toujours être ajouté dans le temps. L'œuvre
oui,
d'art.
Exactement.
En haut, en bas.
Exactement. Commençons par mettre des marches. Sécuriser.
Oui.
Parfait.
Oui.
Good. Là, j'imagine que si on a dit 3,8 millions, parce qu'on a fait des appels d'offres.
Ouais, ben.
Il y a des entrepreneurs qui ont dit ça va coûter ça.
Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant. Puis la Ville de Québec fait toujours ça dans un ordre qui est critiqué par plusieurs. On fait des évaluations de nos projets. Donc, par exemple, on dit l'escalier du Faubourg va coûter 1,4 million. Puis par la suite, quand on fait l'appel d'offres, on dit voici le prix évalué de l'escalier du Faubourg, 1,4 million. On remet ça aux entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs prennent ça et par la suite peuvent appliquer ou non à l'appel d'offres. Ça, c'est critiqué par plusieurs parce qu'on dit
ben,
des entrepreneurs qui auraient voulu appliquer en dessous, ben là, ils voient l'évaluation. Ils se disent pourquoi j'appliquerais à 700 000?
Si je peux appliquer jusqu'à 1,4 million.
Jusqu'à 1,4 million.
C'est ça. Pourquoi je ferais ça? La manne est là. Ils feraient ça avec leur argent. Ils diraient pour leur renom de maison. Hey, sais-tu quoi? J'ai évalué ça, moi, là. C'est 800 000. Ben, fait qu'arrive pas en bas, là. Je veux surtout pas sauver d'argent.
Non, c'est stupide. Au pire qu'ils gardent pour eux leur évaluation.
Ben oui, ben oui.
L'entrepreneur, automatiquement, ce qu'il dit, c'est ben, je vais aller à côté de prix qu'eux pressent. La question a été posée à Mélissa Coulombe-Leduc et Eleni Lepage de pourquoi on a fait ça de cet ordre-là. Voici leur réponse.
Bien, nos équipes estiment toujours, puis même si vous regardez l'appel d'offres qui a été lancé hier, il y a des estimations qui sont dans l'appel d'offres. Donc, puis nos équipes sont assez bonnes généralement là, pour. On a une équipe en niveau d'appro, ils connaissent super bien le marché, sont souvent, je veux dire, me permettre l'expression sur le target. Donc,
puis voilà. J'aimerais aussi dire, c'est un peu. C'est aussi dans la transparence avec les citoyens, là, combien ça va coûter de refaire ces escaliers-là. Pour le commun des mortels, on n'a aucune idée combien ça vaut.
Mais t'sais, honnêtement, je le crois que les équipes de la ville sont super bonnes, mais il faut juste pas qu'ils le disent. Pour que comme ça, quand les entrepreneurs vont faire leurs appels d'offres et leurs soumissions, qu'ils puissent comparer avec eux leur évaluation.
Puis c'est qu'on sait qu'il n'y a pas nécessairement 200 entrepreneurs qui font des appels d'offres pour les municipalités ou encore le gouvernement provincial et tout, parce que c'est beaucoup de paperasse, c'est excessivement compliqué pour les entrepreneurs. Donc eux, c'est sûr, si tu dis « Hey, ça coûte 1,4 million », bien ils vont subventionner autour de ça parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas nécessairement avoir... tant de concurrence que ça.
Puis c'est sûr qu'ils veulent le projet. Fait que moi, je me dis, s'ils n'ont pas le prix qui est évalué par la ville, ils vont essayer de le mettre au moins cher possible pour être certain d'être pris. Comprenez-vous ce que je veux
dire? Ben oui.
Si toi, tu sais pas là, le budget de la ville...
C'est pas que c'est 1,4. Ça se peut que tu bêtes 800 000 parce que tu dis, je veux absolument
je
l'avoir.
Je veux le projet, puis je suis capable de le faire pour 800 000. Je vais rentrer dans mon argent, donc
mais
je vais
là,
le proposer.
Mais là, pour l'avoir, tu vas bêter 1,3. Fait que tu vas faire payer 500 000 de plus à la ville.
Eh oui.
Alors voilà. C'est juste pour ça qu'il faut pas qu'ils le disent. Ah! Oh.
devrait... 500 000, honnêtement, même si on dit c'est des peanuts, c'est pas des, des peanuts tant que ça. Non, ça peut vraiment aider.
Oui. Quand ça commence à s'accumuler, ça devient tout sauf des peanuts.
Puis au municipal, ça compte encore plus.
On devrait gérer ça, cette ville-là, nous autres. Ou se partir une compagnie de faiseurs d'escalier.
Sais-tu quoi? Je vous le conseille pas de m'engager pour ça.
Moi non plus, toujours arraché à faire les escaliers de mon patio. Prends pas l'escalier du faubourg.
Je peux vraiment vous proposer pour 1,4 million puis trouver le monde pour le faire, par exemple. Puis garder la somme de différentiel.
Exactement.
Ça s'appelle crosser le monde.
Ça tombe bien qu'on parle d'entrepreneurship parce qu'on a Isabelle Lebert, présidente directrice générale de l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui suit pour terminer notre semaine à l'émission On en jase. On va parler de reprenariat et on va parler d'un concours super intéressant pour les jeunes entrepreneurs. C'est ce qui suit à On en jase dans un instant sur Boulevard 102.1. Émission On en jase qui tire à sa fin à 13h48. Le retour de Gravel qui suit de 14h à 16h. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est moins 2. Il y aura faible neige intermittente ce soir, cette nuit. 3 degrés demain avec un ciel dégagé. 0 degrés avec de la neige pour dimanche. Également, dans une grosse nouvelle du monde culturel aujourd'hui, Chuck Norris, le concurrent de Rambo. Il y avait Sylvester Stallone avec Rambo. Puis Chuck Norris avec ses films, on écoutait ça dans mon enfance, est décédé malheureusement à l'âge de 86 ans. On parle énormément d'entrepreneuriat dans l'actualité parce que c'est une guerre tarifaire, c'est difficile pour nos entrepreneurs. Puis on se dit, coudonc, les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour être encore motivés comme ça? On a la personne parfaite pour nous en parler, c'est Mme Isabelle Lebert, PDG de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mme Lebert, ça va bien?
Oui, merci, vous.
Ben oui, ça va super bien. Dites-moi donc, ça pogne-tu encore, l'entrepreneurship? Vous avez combien d'élèves à votre école?
Au-delà de 1200 qui ont fait nos programmes, mais c'est plus de 12 000 de personnes qui sont venues à l'école jusqu'à présent, là, depuis 15 ans.
Alors, c'est des gens qui travaillent, donc qui viennent en cohorte une à la suite de l'autre. Donc, ils viennent une fois par mois, hein, si je ne me trompe pas.
Ben, c'est des gens qui ont leur entreprise.
C'est ça. Mm-hmm.
Fait qu'ils viennent à l'école aux 6 à 7 semaines, effectivement.
Puis là, le but, c'est de parfaire leurs connaissances pour être capable d'amener leur entreprise à un autre niveau?
C'est des programmes de croissance. Donc, ils viennent à la rencontre d'entrepreneurs d'expérience qui partagent leur expérience, leurs bons coups, leurs mauvais coups, les échecs qu'ils ont eus, puis ou qu'ils ou qu'elles ont eus. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment un grand partage d'expérience pour faire grandir tout le Québec Inc.
OK. Vous m'amenez justement sur un terrain en entrepreneuriat. Ça arrive qu'on se casse la gueule. Ça arrive même, je pense, régulièrement. Je pense qu'il faut toujours se casser la gueule une fois pour savoir comment réussir. Donc, les entrepreneurs d'expérience viennent vraiment partager ces moments-là où ils ont vécu justement une certaine détresse, une certaine solitude.
Écoute, Lonely at the Top, ça existe. C'est encore présent. Ils viennent partager un peu de tout. Est-ce qu'on se pète la gueule en entrepreneuriat? Oui. Souvent. Tu sais, ce sont des gens dans l'innovation. Ce sont des gens qui créent de la valeur dans la société. Ce sont des gens qui voient un enjeu puis qui se disent « OK, comment je fais pour régler ça? » Il n'y a pas de livre de recettes, là. Ils partent puis ils veulent améliorer quelque chose. Donc, est-ce qu'on se pète la gueule dans ce temps-là? Ben oui. Oui. Exactement.
Qu'est-ce qui motive les jeunes entrepreneurs malgré la guerre tarifaire, la guerre en Iran, le pétrole augmente, le commerce qui est de plus en plus facile et accessible via les Amazon de ce monde?
Les taxes et impôts.
Les taxes et impôts, la paperasse, l'administration
qu'on doit avoir faire.
Ouais. On aime pas mal d'embûches, finalement,
mais
Pascal.
Dans le fond, on pourrait saigner du nez.
Bon, oui, c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux quand on est entrepreneur. On se le cachera pas. Puis quand t'en règles un... Puis aujourd'hui, les enjeux sont interconnectés. T'en règles un... Je parle souvent avec des entrepreneurs, c'est ce qu'ils me disent. Je règle un problème, je me retourne d'abord, j'en ai quatre. Mm. Puis les quatre sont interreliés. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui les motive? Écoute, je l'ai dit, le désir de vouloir changer le monde, le désir de vouloir améliorer une situation... Ce sont des gens qui voient la valeur ajoutée de quelque chose qui n'existe pas. On n'apprend pas ça sur les bancs d'école, on va se dire la vérité. Donc, tu sais, quand vous étiez jeune à l'école, est-ce qu'on vous parlait d'être entrepreneur? Jamais.
Non.
Ça ne faisait pas partie de notre cursus, ça n'existait pas. Donc, justement, fait que ce sont des gens qui ont appris par eux-mêmes, qui ont essayé de trouver une solution par eux-mêmes. Puis aujourd'hui, on a un camp pour les jeunes, justement pour parler de ça, dire la profession d'entrepreneur, ça existe, ça fait partie d'un cursus, vous pouvez vous former là-dessus. Vas-y, t'as
Ben non, mais c'est parce que je vous entends, puis moi, ça me fait penser à une de mes amies qui est dans une entreprise familiale. Elle essaie de reprendre les rênes de son père. C'est difficile, c'est complexe. La place de la femme, il y a plein d'affaires là-dedans. Ouais. Le reprenariat, c'est quand même une thématique fort importante en ce moment chez nos entrepreneurs. Qui va reprendre l'entreprise? Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Est-ce que c'est le défi majeur, en fait, tout ça?
Le défi majeur de la société?
Oui, en ce moment, en entrepreneuriat.
C'est un des défis majeurs, on le sait. Là, il y a une quantité importante d'entreprises qui vont prendre, qui vont trouver un nouveau propriétaire, un nouveau président dans les prochaines années. Là, on parle des 5 à 10 prochaines années. Fait que ça fait partie, oui, des défis majeurs. Est-ce que c'est le seul? Non. On parle d'innovation, on parle de productivité, on parle de main-d'œuvre. T'en as nommé plein tantôt, là. Mm-hmm. Mais c'est un défi hyper important. Et de nous, d'investir sur les jeunes de 16 à 22 ans pour déjà les préparer à prendre la relève, à créer des business, bien ça, c'est super important.
OK.
Pour rappel, on parle avec Isabelle Lebert, qui est PDG de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Parlez-moi de votre concours. Parlez-moi de ce que vous faites justement pour ces jeunes entrepreneurs-là, pour qu'ils passent par chez vous et qu'ils bénéficient des conseils des entrepreneurs d'expérience.
En fait, depuis longtemps à l'école, on a un camp qui s'appelle le camp SEED pour les jeunes entrepreneurs. Donc, c'est du 16-22 ans. Il y a un groupe de 16-18, j'en ai un 19-22, là, parce qu'on sépare les deux. Et là, via notre fondation, on est capable d'offrir ce camp-là gratuitement à nos jeunes Québécois. Donc, notre grand rêve, c'est 150 places par année, si on atteint ce qu'on veut atteindre. Dans le fond, on sollicite 1000 entrepreneurs de donner 1000 $ par année pour aider les jeunes. Fait que si on a 1 million, imaginez le nombre de jeunes qu'on peut aider, puis de vraiment développer le leadership et l'entrepreneurship chez nos jeunes. Dans le fond, on change la trajectoire du Québec. Là. On se crée un bassin d'entrepreneurs et de jeunes leaders prêts à prendre la relève de ces business-là.
C'est combien de temps le camp? Parce que moi, je pense à ça, 16-17, t'es au cégep ou t'arrives au cégep.
Semaine.
C'est une semaine.
C'est une semaine l'été ou une semaine à la relâche. Donc là, c'est ça. Donc cet été, on en a 90 places de disponibles, étant donné qu'on n'a pas amassé encore une fois le 1 million. Mais si vous connaissez des entrepreneurs qui ont envie de donner 1000, ouais. Ça peut être 500 $, OK?
Ouais, ouais,
c'est pas grave, là. L'important, c'est que moi, je connais aucun entrepreneur qui a réussi par lui-même. J'en connais pas un, OK? Ils ont tous eu de l'aide. Mm-hmm. Ils ont tous eu quelqu'un qui ont cru en eux
autres. Tout un mentor.
Oui. Fait que si on est capable d'investir sur nos jeunes puis d'amasser assez d'argent pour à chaque année offrir le camp SEED à des nouveaux, là, 150 nouveaux par année, ben, je pense qu'on est en train, comme société, de se créer une belle équipe de jeunes
vraiment.
Leaders prêts, justement.
Puis c'est gratuit pour ces jeunes-là? C'est en fait les dons qui permettent d'éduquer
Donc,
les jeunes
ça
avec
devient
le camp?
100% gratuit, wow. Le camp de 5 jours à l'école. Puis là, ils viennent rencontrer d'autres entrepreneurs d'expérience. Ils viennent aussi recevoir un partage d'expérience. Ils se créent une cohorte. Tu le sais comment que c'est, là. Tu connais des gens qui sont venus. Ils se créent une cohorte partout au Québec de jeunes qui se connaissent, qui s'entraident. On le disait tantôt, c'est contagieux être entrepreneur. Mm-hmm. Ça prend de l'aide, ça prend de la motivation. C'est difficile. Si t'as pas un bon réseau pour te supporter, oublions ça. Donc, c'est ça que ça génère. Puis, ils ont confiance en eux après la semaine chez nous déjà. 5 jours, ils partent puis ils ont confiance.
À quel endroit les jeunes peuvent s'inscrire?
Beauce.com, il y a un espace pour s'inscrire pour le camp SEED. Même chose pour le don, Beauce.com via la fondation. Non, sérieux, c'est super important.
Ah oui, vraiment, vraiment.
C'est super important. 500 $, 1000 $, je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent le donner.
Oui, je sais qu'on a beaucoup d'entrepreneurs à l'écoute. Donc, allez-y sur le site web Beauce.com. Allez donner, allez faire vivre cette expérience-là extraordinaire à nos entrepreneurs de demain qui vont justement amener la société plus loin.
Ou encore reprendre vos entreprises.
Encore.
Oui.
Très bon point, merci.
En plus. C'est déjà tout pour nous, Pascal, pour cette semaine. Madame Lebert, merci beaucoup d'avoir conclu la semaine avec
merci
nous, avec
vous deux.
Votre superbe école et votre superbe camp pour les jeunes. On se reparle lundi prochain, nous, Pascal?
Sans faute.
Bon week-end, tout le monde. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Gravel.